Europe 1.
Nous sommes le vendredi 26 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, l'épilogue d'une affaire qui a tenu une partie de la France en haleine. Kenji Girac aurait simulé son suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Récit complet dès le début de ce journal. La campagne pour les élections européennes. Le président du Rassemblement National défend une Europe des nations avec un rôle central pour la France. Jordan Bardella a livré les grandes lignes de son programme. Le président du RN qui continue de creuser l'écart avec son le baromètre Opinion Way. Pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, avec 30% d'intention de vote. Le RN est à 12 points devant la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Dans ce journal également, les pilotes de ligne inquiets face au développement de l'intelligence artificielle dans les cockpits. Manifestation ce matin à Roissy. Enfin, l'âge d'or des salles de cinéma, raconté par la Fondation Pathé. Vous allez voir, c'est épatant. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un chanteur qui ne voulait pas être abandonné. Résumé un peu abrupt dans le cas de Kenji Girac, mais pour le procureur de la République, c'est la piste à suivre. Oui, l'artiste a bel et bien retourné l'arme contre lui. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Reste à savoir s'il a fait feu volontairement ou par maladresse. Là aussi, la justice penche pour un suicide simulé après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest.
Pas d'intervention d'un tiers, pas un tir accidentel non plus. Dimanche dernier, toute la journée, Kenji Girac boit beaucoup, un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, selon les estimations médicales. Les analyses révéleront aussi des traces de cocaïne. Ivre, quand il revient dans sa caravane, le chanteur se dispute avec sa compagne, d'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur petite fille. Entendant sa femme évoquer son départ, l'artiste, seul dans le salon, la petite et sa mère sont dans la chambre, va s'emparer du pistolet qu'il a acheté quelques jours plus tôt, 500 euros. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Quelques expertises sont en cours d'achèvement, mais le magistrat explique que cette procédure, sur le plan judiciaire, devrait donc se terminer par un classement. Mont-de-Marsan, Stéphane Place, Europe 1.
Une nouvelle affaire maintenant, une affaire présumée de guet-apens, met en lumière le rôle potentiellement néfaste du site de rencontre Coco.
Enquête ouverte à Cholet après la violente agression d'un homosexuel tabassé par plusieurs individus et dépouillé, c'était il y a 2 jours. Ce réseau social soupçonné d'être à l'origine de la mort de Philippe aussi à Grande-Synthe. Ce site est toujours actif, mais il intéresse de plus en plus les enquêteurs, William Molinier.
Il est régulièrement pointé du doigt par les familles de victimes et les associations. Coco, ce site internet refuge des délinquants en quête de discrétion, officie depuis une décennie, sans jamais être inquiété. En 2022, la plateforme bulgare est partie s'héberger à Guernesey. L'île britannique se trouve en dehors de l'Union européenne, a priori hors d'atteinte des autorités françaises. Sauf que, depuis l'automne dernier, le règlement européen dit DSA permet de poursuivre les plateformes dans le monde entier dès lors que des citoyens européens sont ciblés. L'occasion pour Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialiste du numérique, de tester cette nouvelle disposition.
Les utilisateurs eux-mêmes peuvent considérer que l'utilisation du réseau social porte atteinte en tant que telle à leur vie privée. Ça ne serait pas forcément insensé de saisir les juridictions au titre de la protection qui leur est donnée par le DSA.
Les utilisateurs, mais aussi l'État, via l'ARCOM, pourraient, selon l'avocate, contraindre la plateforme au regard du droit européen pour la forcer à modérer davantage, voire à la fermer définitivement.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
Il est 7h04 sur Europe 1. La campagne pour les élections européennes, le baromètre Opinion Way pour Europe 1, CNews et le JDD confirme la large avance du Rassemblement National dans les intentions de vote.
30% pour le RN qui continue de faire la course en tête, loin devant la liste de Valérie Ayer, reléguée à 12 points. Dans son rétroviseur, la candidate de la Macronie voit revenir le socialiste Raphaël Glucksmann, crédité de 13% d'intention de vote.
Oui, Emmanuel Macron lui était en mission hier à l'université de la Sorbonne, sauver l'Europe d'une mort certaine si elle n'évolue pas.
Et en creux, le chef de l'État cherche aussi à sauver la candidate Ayer. C'est aussi ce que lui reprochent les oppositions, le Rassemblement National qui engage le bras de fer avec Emmanuel Macron. Présentation du programme du RN pour ses européennes, son président Jordan Bardella cherche à prendre le chef de l'État à contre-pied sur son terrain favori, l'Europe. Alexandre Chauveau.
Oui, un projet bâti sur deux piliers, protéger et produire. La protection d'abord, avec un renforcement des frontières, en faisant de Frontex une vraie agence de lutte contre l'immigration clandestine. Protection également des intérêts économiques de l'Union, en luttant contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. La production ensuite, pour tenter de réduire les dépendances de l'Europe. Cela passerait notamment par une coopération européenne des pays favorables au nucléaire, censé permettre, grâce à une énergie à bas coût, la réindustrialisation du continent. Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes.
Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement, profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent.
Au Rassemblement national, le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne est vu comme un engagement personnel dans la campagne. En cas de défaite, il devra donc en tirer toutes les conséquences, affirme Jordan Bardella, qui demandera, en cas de victoire le 9 juin prochain, une dissolution de l'Assemblée.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Un retour à la normale dans les aéroports français ce matin après la grande pagaille d'hier.
Ah, le jeudi noir annoncé s'est bien produit malgré l'annulation de la grève des contrôleurs aériens. Plusieurs centaines d'avions cloués au sol et des aéroports parfois désertés. Après les aiguilleurs du ciel, les pilotes. Manifestation à 11h ce matin à Roissy à l'appel du SNPL. Le principal syndicat dénonce la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle dans les cockpits et donc les menaces sur l'emploi. Une fausse inquiétude pour Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique.
Aujourd'hui, il faut bien être clair, il y a deux pilotes dans les appareils, quel que soit l'avion, voire trois ou quatre pilotes quand on va faire des vols qui vont dépasser 10, 12, 14 heures de vol. L'objectif des compagnies aériennes qui n'arrivent pas à recruter des pilotes, c'est de pouvoir faire en sorte que oui, il y aura toujours deux pilotes au décollage et à l'atterrissage, mais sur un vol très long, on pourrait imaginer qu'un pilote se retrouve seul aux commandes pendant quelques dizaines de minutes, peut-être une heure, et que l'autre pilote puisse aller se reposer. Mais ça veut dire qu'on aurait un pilote qui serait tout seul dans le cockpit, qui serait encore plus assisté par des systèmes d'intelligence artificielle et également des systèmes de suivi de ses performances. Est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce qu'il est totalement en train de vérifier ce qui se passe dans la machine? Et c'est ça la sécurité que pourrait apporter l'intelligence artificielle si jamais on passe avec moins de pilotes dans les avions.
Xavier Tittelmann, consultant en aéronautique avec Antoine Bienveau. On choisit ses copains mais rarement sa famille, dit le chanteur Renaud. On peut aussi choisir son nom, possibilité offerte par la loi depuis 2 ans. Près de 150 000 Français l'ont fait, démarche effectuée en majorité par les 18-29 ans selon l'INSEE.
Et puis du cinéma dans ce journal, hein, le Luxor, le Rex, le Paramount, la Fondation Pathé ressuscitent l'âge d'or des palais du cinéma.
Et des salles mythiques parfois en danger, on pense à l'UGC Normandie des Champs-Élysées qui devrait bientôt fermer. La Fondation Pathé a donc décidé de les faire revivre à sa manière. Visite guidée avec Marie Jiquel.
Le Rex et son style art déco, le Luxor et ses mosaïques égyptiennes très modernes à l'époque, le Paramount surnommé le Ritz des cinémas parisiens et le géant Gaumont Palace.
Le Gaumont Palace dans les années 30 avec sa façade majestueuse pleine de lumière, on dit qu'on voyait ce puits de lumière très loin dans Paris.
Ces temples du cinéma aux façades ornées de néons, métamorphosées ou rasées, ressuscitent ici à travers des photos, des affiches, alors à l'époque pas encore de pop-corn, mais des loges pour les plus riches. Des restaurants et même des garderies pour enfants. Axel Huyg est l'un des commissaires.
Pour se différencier du théâtre, les architectes pensent au siège face à l'écran et non plus tourné sur le côté pour ne pas tourner la tête. L'aération, très importante puisqu'on peut fumer dans la salle. Des orchestres, balcons, mezzanines. Donc le spectacle est aussi dans la salle, effectivement.
Une exposition en lien avec l'ouverture en juin prochain du Pathé Palace. Nouvelle salle pensée par l'architecte Renzo Piano sur les grands boulevards à Paris. Le retour des monuments ciné avec l'option pop-corn.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Et puis tiens, le sport, 31e journée de Ligue 1 ce week-end avec un Montpellier-Nantes en guise de hors-d'œuvre ce soir, coup d'envoi à 21h.
Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors, quel 26 avril allons nous revivre ? J'ai un indice peut-être. Hein.
La création de Love Story, la première télé-réalité française, le 26 avril 2001.
Ah bah que de souvenirs, ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin. Nous prendrons la direction de Bruxelles, en effet dans un instant rejoindre Fadila Maroufi. Elle lutte au quotidien contre l'influence croissante de l'islam politique sur la société belge. Elle va nous raconter, à tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles en Belgique, Fadila Maroufi.
Bonjour Fadila Maroufi.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi la cofondatrice du Café Laïque de Bruxelles. Bruxelles est-elle devenue la capitale européenne de l'islam politique? On se pose la question ce matin avec vous, Fadila Maroufi, sur Europe 1. Une semaine après un événement qui a marqué là en France, la tentative d'annulation d'une conférence des nationaux conservateurs européens dans une des communes de Bruxelles, dirigée par le bourgmestre Emir Kir. Vous allez peut-être nous parler un peu de lui. Alors, cette fameuse conférence, elle a malgré tout eu lieu. Il a fallu que ça remonte jusqu'au Conseil d'État belge, mais ce que l'on a découvert en France, Fadila Maroufi, c'est l'influence extrêmement forte à Bruxelles d'un islam fondamentaliste, particulièrement pugnace et qui parvient à obtenir des autorités la censure de tout groupe politique qui ne lui est pas favorable. Car ce sont des fondamentalistes qui ont œuvré à l'interdiction de cette conférence. Vous les connaissez bien, vous, Fadila Maroufi, tous ces censeurs islamistes?
Oui, tout à fait. Ça fait depuis quelques années, en fait, que d'abord, je suis née à Bruxelles et je suis issue d'une famille de musulmane. Et je suis née de 8 enfants. Donc, évidemment, j'ai grandi à Bruxelles dans un quartier qu'on appelle les quartiers assez sensibles, juste à côté de Molenbeek. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler quand même, pour qu'on comprenne un peu, en fait, qu'est-ce que Bruxelles et comment elle est constituée. Donc, la région de Bruxelles est constituée de 19 communes et on a une population musulmane qui est aussi entre 22 et 44% de musulmans. Ce qui est évidemment porte des voix musulmanes qui sont importantes pour les élections. Il y a évidemment en 2024 les élections européennes, mais il y a aussi les élections pour la Belgique régionale, fédérale et communale. Donc le vote des musulmans est très important à Bruxelles pour tous les partis politiques, francophones notamment. Et évidemment, la gauche qui a pour la plupart du temps jusqu'à présent eu des votes musulmans, mais on voit aussi que ces dernières années, la droite commence à recruter auprès des personnes de la communauté musulmane.
Oui, il y a un enjeu. Alors, vu les chiffres que vous nous donnez, vous nous dites 22 à 44% de musulmans vivant dans Bruxelles, dans les différentes communes de Bruxelles capitale. L'enjeu électoral, c'est le vecteur d'une islamisation plus ou moins douce des mœurs de la société bruxelloise aujourd'hui, Fadila Maroufi.
Oui, l'islamisation, en fait, s'est faite progressivement depuis 40 ans. Maintenant, nous sommes à 3 voire 4 générations de personnes islamisées. Et ces 20 dernières années, on peut constater, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps. Elles ont un niveau d'éducation universitaire. Et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal. Et un exemple...
Projet califal. Vous dites, Fadila Maroufi, c'est un projet califal.
Ah ben bien sûr, c'est imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe, les institutions européennes s'y trouvent, et il y a une influence des frères musulmans qui est très présente. Mais pour vous donner un exemple de l'influence des femmes, Bruxelles-Molenbeek présentera sa candidature pour être en 2030 la capitale européenne de la culture. La personne qui a été choisie, c'est Fatima Zibou, femme voilée, proche des frères musulmans, qui a un doctorat en sciences politiques et sociales, qui est une entrepreneuse sociale. Elle est extrêmement influente et c'est quelqu'un qui est influente un peu partout à Bruxelles. On peut la voir, elle est mise en avant par les médias francophones belges.
Alors ce fondamentalisme islamique, cette politisation islamiste de la vie bruxelloise, Fadila Maroufi, comment ça se traduit dans la vie quotidienne? À quoi ça se voit? Parce que ça se voit.
Alors, ça, on peut le voir d'abord quand on se balade à Bruxelles, que ce soit dans les transports en commun ou un peu partout à Bruxelles. La grande majorité des femmes musulmanes sont voilées. Mais ce qui est plus inquiétant maintenant, parce que on parle même plus du voile des femmes, c'est plutôt le voilement des petites filles. Honnêtement, vous traversez Bruxelles, vous pouvez le constater par vous-même. Mais c'est aussi dans certaines écoles, des établissements scolaires, notamment le parti Réseau Libre catholique. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez dans une école, il y a 10 ans, on a recruté une femme professeure de mathématiques voilée. Maintenant, elles sont plus de 10. L'équipe éducative est constituée, la direction de personnalités de confession musulmane. Et là, où ça pose question, c'est que ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont réprimandées, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché. Mais c'est dans la vie du quotidien qu'on le voit, mais aussi au niveau politique. Nous avons des personnalités comme Emir Kir, dont vous avez parlé et vous avez rappelé, qui a tenté d'annuler un événement.
Donc c'est le maire de la commune de Saint-Jost-en-Nose, hein, qui fait partie de ces 19 communes formant Bruxelles capitale. Hein.
Tout à fait. Pour rappel, c'était pas le seul. Nous avons eu aussi un autre maire de Bruxelles, Philippe Claus, c'est lui le premier en fait qui a annulé l'événement, qui a fait annuler l'événement. Et qui fait partie du Parti socialiste. C'est aussi.
Mais comment ça marche? Pardonnez-moi, Fadila Marenfi, mais comment ça se voit sur la carte? Est-ce que ce que vous nous décrivez là, ce sont des sortes d'isolats islamiques à l'intérieur de Bruxelles, des quartiers qui sont vivant une forme de repli communautaire? Ou est-ce que ça va au-delà de ça, cette influence? Comment réagissent les Belges? Comment réagit la société? Je pense à cela parce que en France, on a eu l'exemple récent de Gabriel Attal, le Premier ministre, pointant du doigt l'entrisme islamique. Ça lui a valu quelques reproches d'ailleurs du recteur de la mosquée de Paris. Est-ce qu'on voit ce genre de réaction politique en Belgique, ou bien tout ce que vous nous racontez s'opère dans une inertie, une sorte de silence généralisé? Tout va bien, Madame la Marquise.
Alors tout ça, en fait, se fait d'une manière très discrète. Alors on a parfois évidemment des événements qui montrent qu'il y a un problème. Si on prend par exemple un conseil communal à Anderlecht, où il a fallu porter le vote d'une motion par la gauche et par écolo sur le port du voile dans l'administration, la veille, il faut savoir que ces élus ont été menacés de mort et que finalement on a quand même voté cette autorisation au port du voile. Et donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a parfois des petits coups comme ça médiatiques, mais qui ne durent pas très longtemps, puisqu'ils peuvent compter aussi sur le silence des médias sur toutes ces questions qui touchent l'islamisme et la radicalisation. Voilà, et puis les citoyens le ressentent, mais ils n'ont pas vraiment grand-chose à dire, puisque à partir du moment où vous en parlez, vous êtes tout de suite censuré, vous êtes ostracisé, vous êtes attaqué, puisque encore une fois, les frères musulmans sont vraiment très puissants et très très présents dans tous les secteurs de la société maintenant, à l'heure actuelle, à Bruxelles. Donc Bruxelles est vraiment pris, et les partis politiques, encore une fois, n'oseront jamais prendre position, de peur évidemment de ne pas avoir le vote des musulmans, surtout à l'heure actuelle. Et on le voit notamment depuis le 7 octobre avec le conflit Israël-Palestine, qui devient vraiment un enjeu électoral à l'heure actuelle. Donc on voit certaines personnalités qui hissent le drapeau palestinien devant la maison communale sans demander l'avis des autres élus, comme c'est le cas à Evere avec le bourgmestre Redouane Chaïd, et d'ailleurs qui s'en vante, hein, qui s'en cache pas et qui dit clairement qu'il a pris cette initiative sans en parler aux autres élus, qu'il trouve ça normalement. Il explique ça devant les médias en disant oui, j'ai pris cette décision puisqu'on l'a fait à l'Ukraine, on le fait aussi pour la Palestine. Et ce sont des associations telles que BDS, le boycott des investissements sanctions, qui en a fait la demande et ça a été accepté. Alors que des citoyens ont demandé à hisser aussi le drapeau israélien, ça a été refusé, puisque ce bourgmestre dit tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu de la part d'Israël, on ne nous hisserons pas le drapeau d'Israël. Donc on voit quand même qu'il y a l'influence, en tout cas, de la communauté musulmane est très forte, et donc ça oblige les partis politiques de se taire. Le parti réformateur, qui est libéral, donc qui est l'équivalent du LR, on peut dire qu'ils se positionnent contre l'islamisme en parole, mais ça n'empêche pas que ces dernières années, ils ont beaucoup recruté au sein de la communauté musulmane, et il y a aussi des personnes frères musulmans au sein même de leur parti.
Ouais, c'est assez édifiant ce que vous nous racontez, Fadila Marenfi. J'ai cité votre observatoire tout à l'heure, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Alors c'est intéressant de voir ce que vous faites. Ça produit de la connaissance, vous nourrissez les réseaux sociaux. Vous tenez aussi des permanences sociales, Fadila Marenfi. Mais ça s'adresse à qui? Qui vient vous voir?
Alors très souvent, j'ai un peu de tout public, des personnes qui sont issues de familles musulmanes, qui sont elles-mêmes musulmanes, ou alors des ex-musulmans J'ai aussi des professeurs, des instituteurs, des directions d'école qui s'adressent à moi. Toute personne en tout cas qui se sent soit menacée directement ou indirectement par le fondamentalisme islamique. Et donc j'essaye de les voir, mais évidemment ça, de les rencontrer pour en discuter. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce que certaines personnes essayent de me tendre des pièges, on va dire, et de me voilà, de me rencontrer pour essayer de me faire taire, puisque je suis menacée de mort au sein de dans mon pays, et que tout ce qu'on dénonce au sein de l'observatoire gêne énormément et de plus en plus, puisque jusqu'à présent très peu de personnes, voire quasiment personne en fait, n'en parle.
Oui. Le destin que vous nous racontez de la Belgique, très rapidement, Fadila Maroufi, vous imaginez que ça puisse un jour se produire en France, qu'on puisse en arriver là?
Alors la France pourrait évidemment, puisque depuis Bruxelles en tout cas, le CCIF qui a été dissous est venu s'installer sous l'appellation du CCIE, attaque les islamistes depuis Bruxelles, attaque la France. Et surtout au niveau des institutions européennes. Donc il faut vraiment que la France s'intéresse à Bruxelles plus que jamais, parce que vous êtes un pays qui résistait. On le sent dans les débats, dans les discussions. Vous avez des médias qui sont diverses, alors que chez nous, nous sommes très limités. Les citoyens belges, nous suivons la presse française, comme Europe 1 ou CNews ou d'autres médias français qui parlent de ces phénomènes. Alors juste aussi pour rappeler très rapidement, hein, puisque vous demander des choses concrètes à Bruxelles. Il y a eu en décembre 2023, on a parlé de Majed Alzer, le chef européen du Hamas, qui dispose de bureaux devant le Parlement européen. Et évidemment, pour lui, il s'agit d'observer ce qui se passe dans les institutions européennes et d'être un lobby. Donc on voit bien quand même que des djihadistes, des personnes radicalisées peuvent vivre tranquillement à Bruxelles sans être inquiétés par nos politiques.
Oui. Des bureaux du Hamas juste en face du Parlement européen, c'est vous qui nous racontez ça, Fadila Maroufi. Merci de votre témoignage très fort ce matin sur l'antenne d'Europe 1. D'ailleurs, je précise à nos auditeurs qu'on va vous retrouver dans un petit quart d'heure pour une déambulation en compagnie de la reporter Europe 1 Caroline Baudry dans cette Belgique, dans ce Bruxelles sous l'emprise des islamistes. Merci à vous, Fadila Maroufi. Bonne journée.
Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Europe 1.
Il est 7h23. Apprendre à découvrir une personnalité grâce à ce qu'il écoute, grâce aux chansons qui ont marqué sa vie. C'est le programme tous les dimanches sur Europe 1.
Oui, c'est de 17h à 18h. Didier Barbelivien vous fait découvrir la bande originale de la vie de ses invités. Et ce dimanche, c'est le journaliste Romain Desarbres qui va se dévoiler. Romain Desarbres qui présente la grande interview Europe 1 CNews tous les vendredis à 8h10, qu'on va retrouver tout à l'heure, sera donc l'invité de Didier Barbelivien. Dis-moi ce que tu chantes. C'est tous les dimanches de 17h à 18h sur Europe 1.
Allez, bon réveil à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamarre sur Europe 1.
La campagne pour les élections européennes, le Rassemblement National continue de creuser l'écart sur le baromètre OpinionWay pour Europe 1, CNews et le JDD. Avec 30% d'intention de vote, le RN compte 12 points d'avance sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Valérie Ayer bientôt talonnée par Place publique du socialiste Raphaël Glucksmann. On se dirige vers un classement sans suite dans l'enquête judiciaire sur la blessure par balle de Kenji Girac. Selon le procureur de la République, le chanteur aurait simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Le ministre de l'Intérieur favorable au couvre-feu pour les mineurs en cas de violence. Gérald Darmanin soutient l'initiative des maires qui ont pris cette décision comme à Béziers. Je les soutiens et les préfets les soutiendront. Déclaration en marge d'un déplacement dans l'Aveyron. Enfin le football avec la 31e journée de Ligue 1 Montpellier-Nantes ce soir en ouverture. Coup d'envoi à 21h.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour.
Le 26 avril 2001 commençait la toute première émission de télé-réalité en France. Loft Story, je vais y arriver. 11 célibataires coupés du monde, filmés, écoutés 24h sur 24. La France, lors d'Autriche, va se passionner pour eux pendant 10 semaines.
Oui, pour la première fois, une dizaine de jeunes allaient cohabiter sous l'œil des caméras pendant 2 mois et demi, isolés du monde extérieur. Et les téléspectateurs doivent alors éliminer chaque semaine un candidat.
La France n'y a donc pas échappé à l'image des Big Brother et autres survivors venus des États-Unis. M6 lance ce soir sa Love Story. Le bon vieux tourné-manège, disparu de la télé il y a quelques années, semble maintenant bien désuet.
L'émission devient dès la première semaine un énorme succès. Les lofters, comme on les appelle, sont suivis par 5 millions de téléspectateurs. À l'époque, en 2001, le débat se cristallise autour d'une question. Est-ce ou non du voyeurisme ? Témoignage sur Europe 1.
Moi, j'aime énormément. Je l'enregistre quand je ne suis pas chez moi pour l'instant. Et je trouve ça très sympathique.
Mais moi, je trouve que c'est quand même une vaste escroquerie. Et c'est carrément... Mais alors, soft, soft, soft.
Vous aimeriez que ce soit plus hard ? Hard, hard ?
Un peu plus érotique.
Et effectivement, à l'époque, c'est aussi un sujet. Le présentateur Benjamin Castaldi se défend sur Europe 1. Ce n'est pas une émission à caractère sexuel.
C'est un programme familial avant tout. C'est plus proche de la sitcom classique que du film X. C'est pas le propos de l'émission. Le propos de l'émission, c'est de voir comment se tissent des liens entre des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans.
Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez.
Face aux critiques aussi sur la faible qualité de l'émission en termes de contenu, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal, relativise.
Il ne faudrait pas non plus s'acharner sur une émission populaire, alors que d'autres, parfois, sont beaucoup plus contestables.
Et à la fin, c'est l'une des jeunes stars du programme, Loana, danseuse de cabaret dans la vie, qui sort gagnante.
Vous êtes quand même une star, Loana.
Oui, bah, j'ai encore du mal à m'y faire, alors... Moi, ça me fait énormément plaisir. Après, je sais pas pourquoi.
Si vous n'aviez pas été un peu fauché, un peu paumé, est-ce que vous pensez que vous auriez eu cette notoriété fulgurante ?
Ben, j'espère que c'est pas que à cause de ça.
Le succès est tel qu'à la sortie du loft, les vainqueurs, dont Loana, ont remonté en voiture les Champs-Élysées, saluer leurs fans dans une ambiance presque de finale de Coupe du Monde.
Merci, Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et c'est le dernier jour. Aujourd'hui, vendredi, vous n'hésitez plus parce qu'Europe 1 vous offre un magnifique cadeau. Donc c'est maintenant ou jamais. Vous allez peut-être partir en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Vous allez naviguer pendant 5 jours au fil de la Garonne et de la Dordogne. Alors, il n'y aura pas que du Bordeaux rosé, hein, aussi. Il y aura tous les trésors vinicoles du sud-ouest. Blaye, Libourne, Saint-Émilion, tout est compris à bord. Une cuisine raffinée, des boissons, des animations et des visites guidées. Europe 1 s'occupe de tout pour vous grâce à croisieurope.com.
Voilà, consommer avec modération tout de même.
Évidemment,
le Bordeaux rosé. La question du jour, la voici. Qui fut la gagnante de la première édition de Love Story ? Était-ce Loana ou Delphine ?
Pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez Croisière. Je vous rappelle que c'est le dernier jour, donc allez-y, croisière. Au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS, le tirage au sort aura lieu dans la journée. Bonne chance à tous. Notez qu'à 8h10, Catherine Vautrin sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités face à Romain Desarbres. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Il est pile 7h30 à la une ce matin. Le choc d'une petite ville en Haute-Savoie. Elle abritait sans le savoir un apprenti terroriste de 16 ans qui projetait de mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques. Sa garde à vue se poursuit pendant ce que les habitants, eux, peinent à réaliser. Dans l'actualité également, une peine de cœur, beaucoup d'alcool, un tir en pleine poitrine. Voilà ce qui a failli tuer le chanteur Kenji Jira, qui l'avoue devant les enquêteurs avoir voulu simuler son suicide pour retenir sa compagne. La France, elle, suspendue à la décision des agences Fitch et Moody's qui vont réévaluer ce soir 22h la note de sa dette publique. Et puis des gymnases au monastère, on va vous raconter l'histoire d'un volleyeur qui s'apprête à devenir prêtre. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Au grand jour, un adolescent sans histoire, sur les réseaux sociaux et dans sa chambre, un terroriste présumé qui préparait un attentat pendant les Jeux Olympiques. La petite commune de Marigné, en Haute-Savoie, est encore sous le choc de l'arrestation cette semaine de ce garçon de 16 ans, lui qui voulait se faire exploser dans le quartier de la Défense à Paris cet été. Reportage Europe 1 signé Noémie Loisel.
Sur les hauteurs de Marigné, une zone pavillonnaire proprette, au jardin bien entretenu. Impossible pour les habitants d'envisager qu'un jeune d'ici ait préparé un attentat.
On a vu à travers la haie, ouais, des gens, trois personnes cagoulées. Honnêtement, on n'en s'en a pas douté, non. On le croisait le soir, toujours un bonjour, respectueux.
Respectueux, très gentil, assez timide et sans histoire, le jeune garçon joue souvent football dans le quartier, racontent les habitants. Rien ne pouvait laisser croire à une possible radicalisation, explique l'un de ses anciens partenaires de football, qui préfère rester anonyme pour des raisons de voisinage. personnage.
On jouait au foot tous ensemble, on faisait des cache-cache, super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout, vraiment un super gamin, très gentil, je vois pas faire de telles choses.
Une famille on ne peut plus normale de 4 enfants et des parents sérieux, décrit une autre voisine.
Voilà, c'est une famille qui est tellement calme, tellement gentille, tellement ouverte, en fait, que pour moi, il n'y a aucun moment eu de la radicalisation ou quoi que ce soit, quoi.
Placé en garde à vue, l'adolescent a été suivi pour radicalisation. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh. Marie Igné, Noémie Loisel, Europe 1.
Attentat déjoué donc sur les Jeux Olympiques, des JO. Sans grève à la RATP, les conducteurs de métro sont tombés d'accord avec la direction hier sur le montant des primes JO, de 1500 à 2600 euros pour les agents mobilisés cet été.
Il a voulu simuler un suicide pour convaincre sa femme de ne pas le quitter. C'est la nouvelle version du chanteur Kenji Girac devant les enquêteurs.
Après cette balle qui a traversé son thorax, ce tir qu'il disait totalement accidentel, il avoue finalement avoir pointé l'arme contre sa poitrine dans un désespoir fortement alcoolisé. C'est le long récit qu'a livré hier Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide. « J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. » Il précise qu'il n'avait jusqu'alors pas donné cette version à sa famille et qu'il leur avait dit que le coup était parti tout seul. « J'ai pris l'arme avec la main gauche par le canon. Je l'ai amené à ma main droite. Je tenais le pistolet avec ma main droite et j'ai orienté le canon vers ma poitrine en me tenant avec ma main gauche pour faciliter le mouvement. Puis j'ai tiré le chien en arrière. En tenant l'arme, j'ai un peu basculé vers l'avant. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. » Il précisera par la suite, « J'étais sous à un point de ne pas savoir trop quoi faire. J'ai perdu le contrôle, mais j'étais en état de comprendre ce que me disait Soraya, qu'il qualifie au passage de femme de sa vie. »
Et conséquence de ces déclarations, l'enquête pour homicide volontaire va être classée sans suite. Elle continue en revanche pour savoir où s'est procuré l'arme, où l'artiste s'est procuré l'arme. La politique, et quand Emmanuel Macron met en garde contre les nationalismes, Jordan Bardella enchaîne en prônant une Europe des nations. Discours croisé hier du chef de l'État à la Sorbonne et de la tête de liste RN aux futures européennes. Ce matin, ce baromètre OpinionWay pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, le Rassemblement national creuse l'écart, 12 points d'écart désormais dans les intentions de vote. Le scrutin, c'est dans un mois et demi.
Autre échéance pour l'exécutif, imminente celle-ci. Les agences Fitch et Moody's dévoilent ce soir leur nouvelle note de la dette souveraine française.
Et quelques semaines après l'annonce des dérapages du déficit public, il y a des raisons de ne pas être totalement optimiste. Mais concrètement, Baptiste Morin, que changerait une dégradation de la note française ?
Le risque économique est celui d'une réaction des marchés, une hausse des taux auxquels la France emprunte, en clair que ses créanciers réclament une meilleure rémunération. Après tout, ils seraient en mesure de le demander. Mais ce risque a déjà été absorbé par les marchés, explique Charlotte de Montpellier, chef économiste chez ING.
Il pourrait y avoir une réaction si, par exemple, on avait un jour une agence de notation qui dégradait de manière nette, par exemple deux crans. Alors là, on pourrait avoir une surprise et une réaction des marchés. Mais s'il y a une dégradation vraisemblable ou raisonnable compte tenu du contexte, en fait, c'est déjà intégré dans les cours et finalement, les marchés réagissent très peu à ce genre d'événement.
Et puis, la France reste un placement recherché en Europe. Il y a plus attractif sur le papier pour les créanciers. Par exemple, il y a l'Allemagne, mais les Allemands émettent très peu de dettes. Alors à la place, les investisseurs se tournent vers la France. Et ce n'est pas une dégradation qui ferait passer la note française de l'équivalent d'un 18 sur 20 à un 17 sur 20 qui y changera grand-chose.
Baptiste Morin, aux États-Unis, l'université américaine Columbia ne sera pas vidée tout de suite des étudiants pro-palestiniens qui l'occupent depuis plusieurs jours. Ultimatum et évacuation forcée retardée ce matin, annonce le président du campus. Des manifestations comme celle-ci, il y en a beaucoup aux États-Unis. Reportage à suivre dans le journal de 8h.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h36.
144 000, c'est le chiffre impressionnant du nombre de changements de nom de famille en France depuis bientôt 2 ans.
C'est 3 fois plus qu'avant, annonce l'INSEE. Avant, une loi qui facilite les démarches. Depuis août 2022, plus besoin de passer devant un juge, Louise Salé.
C'est cette loi Vignal qui explique en effet ce boom des changements de nom, des démarches surtout réalisées par des femmes et par des jeunes adultes. Lionel Espina, c'est co-auteur de l'étude à l'INSEE.
Déjà, avant la loi Vignal, les femmes étaient un petit peu plus nombreuses. Avec la loi Vignal, ce phénomène s'est un peu accentué. On a plus de la moitié des personnes qui ont entre 18 et 29 ans. Et puis plus l'âge avance, moins on a de personnes qui se lancent dans ce processus de changement de nom de famille.
Angie David a pris le nom de sa mère et l'explique dans un livre, La Renommée, paru ce mois-ci.
Je voulais quitter le nom de mon père, car mon père s'est très mal, ou même plutôt pas du tout occupé de moi. Et je me faisais d'ailleurs déjà appeler du nom de ma mère, c'est-à-dire David. Angie David était mon pseudonyme, l'équivalent d'un pseudonyme sur le plan juridique depuis 20 ans. Et j'ai pu, grâce à cette loi, devenir pleinement Angie David.
Et dans son étude, l'INSEE note que les deux tiers des demandes concernent le remplacement du nom d'un parent par l'autre, davantage qu'un simple ajout de nom au nom initial.
Louis Salé pour Europe 1. Alors lui ne va pas changer de nom, mais se fera sûrement bientôt appeler Père Ludovic. C'est l'histoire de Ludovic Duet, profession volleyeur, finaliste même du championnat de France avec l'équipe de Saint-Nazaire, mais qui s'apprête à changer de vie pour rentrer dans les ordres. Portrait signé Sandrine Prioul pour Europe 1.
Certains m'appellent le prêtre dans le vestiaire.
Exit les ambiances survoltées des parquets de volley-ball pour celui qui vient de décider de se consacrer à sa spiritualité.
J'ai un attrait qui pour moi vient du Seigneur et dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Et ben, le short et le ballon, ils seront à la récré quand j'aurai des récrés. Il faut le tenter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai envie de me lancer. Puis ça me donnera justement des éléments de réponse s'il y a un manque qui est trop fort ou pas.
Ludovic Duet, libéraux d'1m92, qui sera d'ici quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoines d'Augustin. Objectif, l'ordination.
Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation. Et l'image qu'on en a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques, et tout sauf austère justement.
Le futur prêtre semble enthousiaste. Une vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin. Je connais déjà, sourit le capitaine de Saint-Nazaire Volleyball.
Sandrine Prioul. Et puis allez, on laisse tous traîner un jour une amende dans un fond de tiroir. Eh bien, les autorités belges, là, ont arrêté un automobiliste avec plus de 6 millions d'euros d'impayés.
Mais non.
Montant à peine croyable, mais la somme est bien correcte. Les services ont vérifié. Alors, de quel type d'amende vraiment s'agit-il? Il va falloir éclaircir ça, parce que ce sera probablement pas que des délits routiers. Il en faudrait 2000, selon les estimations, pour atteindre la somme.
Ah, il fait un gros tiroir là.
J'ajoute évidemment que l'homme n'a pas pu régler la somme sur place, mais son véhicule a été saisi.
6 millions d'euros.
6 millions.
Incroyable.
6 200 000 euros.
Il va rembourser toute sa vie, brave homme. Enfin bref, je ne sais pas. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Direction Bruxelles, capitale de l'Union Européenne, capitale européenne également de l'islam politique. Nous irons en immersion avec la reporter Europe 1 Caroline Baudry. À tout de suite.
Il est 8h20, bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Très bon début de journée, belle fin de semaine. Nous sommes vendredi, vous écoutez Europe 1, il est 7h41, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1, on va parler du discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Hier matin à la Sorbonne, qui l'a écouté en entier? Tiens, pendant 1h40, personne? Pas grand monde apparemment. Ah si, Vincent Trémollet de Villers, évidemment, et il va nous en faire le résumé. Le Club Culture d'Europe 1 matin aussi arrive dans quelques instants. On attend Nicolas Caro qui ne saurait tarder. On va parler musique aussi.
Oui.
Bonjour Blin Roche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute ce matin?
On écoute Bon Jovi, un nouveau documentaire en 4 parties consacré au groupe américain et dévoilé aujourd'hui.
Bon Jovi, que de souvenirs. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi sur Europe 1, l'enquête de la rédaction. En Belgique, cette semaine, il y a 10 jours, le maire musulman d'une des 19 communes de Bruxelles interdisait une conférence des nationaux conservateurs européens, révélant au passage au public français l'influence conquise par les islamistes dans la capitale du Royaume des Belges et de l'Union européenne. Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Reporter Europe 1, Caroline, vous avez passé quelques jours en immersion dans la capitale européenne. Ce que vous avez vu par endroits vous a semblé stupéfiant.
Oui, sur un boulevard de l'hypercentre ou à Skarbek, une commune plus populaire, l'islam rigoriste a en fait carrément pignon sur rue à quelques kilomètres du Parlement européen. On a déambulé avec Fadila Maaroufi, votre invitée de 7h10, dans la rue de Brabant, par exemple. Premier stop devant une librairie où les personnages dessinés dans les livres pour enfants n'ont pas de visage, conformément à une vision radicale de l'islam.
En réalité, c'est du prosélytisme. Là, vous avez par exemple voilà, un mannequin sans visage. Et on n'avait pas autant de boutiques pour voir l'intégrale, en fait. Vous en aviez une ou deux. Est-ce qu'on n'avait pas avant? choix, c'est qu'il n'y avait pas pour enfant non plus. Oui, c'est une petite fille qui doit avoir 9-10 ans, qui porte un voile intégral. Bon, à part le visage, tout le reste est couvert. Les petites filles sont sexualisées depuis toutes petites. Et donc, c'est un véritable problème. Ça, ça vient des pays du Golfe, en fait. Arabie Saoudite, Dubaï, Golfe, le Qatar.
Fadia est menacée de mort pour ses prises de position. Elle marche dans l'angoisse. Elle porte un masque chirurgical pour ne pas être reconnue dans la rue. Elle milite pour la laïcité et reçoit de nombreux signalements qui viennent surtout des enseignants, comme Raymond.
C'est la politique de l'autruche lors des classes de dépaysement d'une semaine. Il y a des enfants qui voulaient prendre leur tapis de prière. En primaire, il y a beaucoup de petites fêtes. Il y a des mamans qui ne voulaient pas que les enfants aillent chanter, aillent danser. Parce que c'est haram. Il y a des enfants qui ont des maux de tête parce qu'ils n'osent pas manger quand c'est le ramadan. Et ça, avant, il n'y avait pas.
Mais comment expliquer, Caroline, l'enracinement du fondamentalisme islamique en Belgique ?
Alors déjà, il faut savoir que la laïcité à la Belge est bien différente de la nôtre. Il y a 7 cultes reconnus et financés, dont la laïcité qui n'est pas au-dessus comme en France. Donc les enfants choisissent un cours d'instruction religieuse à l'école publique, christianisme, judaïsme, islam ou cours de morale pour les athées. Tout cela est cloisonné, c'est devenu un terreau pour le rigorisme selon Jemila Benhabib. Elle est politologue et fondatrice du collectif Laïcité Yala, d'autant plus que la Belgique a confié la gestion du culte musulman à l'Arabie Saoudite dans les années 60.
Que c'est une monarchie extrêmement riche et qui pouvait aussi offrir une certaine stabilité énergétique. À partir du moment où vous laissez rentrer le loup dans la bergerie, on n'a jamais en fait encouragé des discours humanistes. La mosquée a eu un rôle à jouer dans la radicalisation de plusieurs profils. Et donc, après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, l'imam de la mosquée, qui était donc un diplomate saoudien, a été chargé.
Alors c'est un chaos organisationnel dans lequel les frères musulmans se seraient donc fait une place à Bruxelles, et tout cela avec la complaisance des pouvoirs publics, Caroline.
Absolument, c'est ce que dénoncent avec force ces femmes de terrain que vous venez d'entendre. Elles réclament un état fort, l'interdiction du voile islamique dans toutes les écoles. Les digues de la neutralité politique s'effondrent, selon elles, dans un silence très probablement électoraliste. Dans certaines communes de Bruxelles, près de la moitié des habitants sont de confession musulmane. Parler des dérives d'une religion à décroyance et prendre le risque de les froisser, alors mieux vaut éviter le sujet.
L'enquête européen du vendredi signée Caroline Baudry à Bruxelles, et on remercie donc tous les interlocuteurs qu'elle a pu rencontrer, car ses prises de parole ne sont pas forcément évidentes pour elle. Certaines prennent des risques. Il est 7h45 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
La page culture d'Europe 1 Matin, on va parler de littérature avec vous, Nicolas Caro, le vendredi. Alors on le sait, c'est un classique ou un roman culte. Cette semaine, c'est une romancière.
Patricia Highsmith, oui, une nouvelle adaptation de son chef-d'œuvre connaît un joli succès sur Netflix. Sur la plateforme, ça s'appelle Ripley. Et le livre, le talentueux Mr. Ripley, évidemment, déjà adapté en film, souvent avec Alain Delon dans Plein Soleil en 1960 et avec Matt Damon ensuite en 99, le roman, lui, date de 1955.
Alors, vous nous rappelez l'histoire, Nicolas ?
C'est celle de Tom Ripley. Au passage, on connaît ce roman-là, mais elle en a consacré 4 autres à ce héros. Mais donc, dans le premier, Tom Ripley est un jeune type qui survit comme il peut dans New York avec des escrocs criminables. Il a tout pour lui, pourtant il a du style, il est cultivé, intelligent. Un jour, un homme très riche, un homme d'affaires, Greenleaf, l'engage. Sa mission, partir en Italie et convaincre le fils de Greenleaf, Dickie, de rentrer en Amérique pour travailler et s'occuper du business familial, plutôt que de vivre la Dolce Vita comme un oisif avec sa petite amie Marge. Tom y va, il rencontre le couple, Dickie est sous le charme, mais Marge se méfie. Il y a un truc qui va pas chez ce Tom Ripley, et elle a vu juste. Tom envie Dickie et sa vie, il est fou de jalousie, il va essayer de prendre son identité et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'argent. Il veut devenir Dickie Greenleaf. C'est un roman génial, un thriller psychologique profond, précis. C'est un roman sur la nature humaine, sur le paraître, sur l'avidité, sur les comportements humains. Le personnage de Tom Ripley est un modèle du genre, à la fois maléfique et séduisant, un héros ambivalent, inquiétant. C'est pour ça sans doute qu'elle ne l'a pas lâché après un seul roman.
Voilà, le talentueux Mr. Ripley de Patricia Highsmith. Donc merci beaucoup, Nicolas Caro. Musique à présent, Omblin Roche, avec cette semaine un documentaire inédit consacré au groupe américain Bon Jovi. C'est à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Disney+.
Je n'ai jamais eu de plan B dans ma vie, c'était Bon Jovi ou rien. Les mots du chanteur John Bon Jovi face caméra, le documentaire Thank You, Good Night retrace 40 ans d'un succès qui ne s'est jamais démenti. It's my life.
Bon Jovi, Omblin, c'est la vitrine d'un pan entier de l'histoire du rock des années 80.
Absolument, hein. Le glam rock, hein, moqué par les puristes, on peut l'appeler air metal aussi, hein, si vous préférez baptiser ainsi, grâce à ou à cause, hein. C'est selon vous ferez votre avis, de la capillarité exubérante des musiciens, les cheveux crêpés bouffent sur le dessus, des longueurs jusqu'aux épaules, une croix se balance à une oreille, en rythme avec les guitares et avec... sacrilège dans le rock,
mais non,
le synthétiseur.
Bon
Jovi, ultra looké, fait donc partie de ces groupes qui vont tout bousculer sur leur passage. Ils accompagnent la création du CD, sont omniprésents sur la toute nouvelle et toute puissante chaîne de télé américaine MTV. Les uns après les autres, les concerts, affiches complètes.
Ce nouveau documentaire, on peut s'attendre à découvrir des moments qu'on ignore de l'histoire du groupe Bon Jovi.
Oui, en tout cas, c'est la promesse, hein. Les membres du groupe dévoilent des photos rares et des vidéos personnelles, des maquettes inédites, des cahiers de paroles. Tous jouent le jeu et témoignent sans filtre les musiciens d'aujourd'hui, ceux d'hier et notamment le guitariste Richie Sambora, l'autre pierre angulaire du groupe. Richie Sambora qui a claqué la porte, hein, une nuit en 2013. Bon Jovi, vu de l'intérieur, les triomphes, les revers, les excès, les conflits et aussi les preuves qu'à travers le chanteur quand, blessé aux cordes vocales, il a été contraint de se faire opérer.
De Victor Porcher au moins, elle plus fan.
C'est exceptionnel.
Ah ben vous le regarderez alors. Thank you, good night. L'Odyssée de Bon Jovi, documentaire en 4 épisodes, disponible dès aujourd'hui sur Disney+. 40 ans de musique, Dimitri, 40 ans de coiffure.
Oh là.
Notez que Bon Jovi sortira un nouvel album le 7 juin, son nom, Forever.
Jovi donc sur l'antenne d'Europe 1 à fond les ballons. Si vous êtes en voiture, n'hésitez pas, ça fait du bien. On lâche les cheveux pour
c'est
ceux qui en ont encore. Je sais pas comment je dois le prendre, ces 40 ans de coiffure que vous avez mentionné. Je suis toujours un peu. Merci beaucoup, Omblin Roche. Merci Nicolas Caron. C'est un plaisir. 7h, c'est où on est, on en est sur nous. Eh bien, l'info
mais
continue.
Il est 7h51.
Avec Victor Porcher pour le journal permanent. Dans un instant aussi, votre édito politique avec Vincent Trémollet de Villers. C'est à vous, Victor.
Les élections européennes et le baromètre OpinionWay pour Europe 1. CNews et le journal du dimanche. Légère progression du Rassemblement national. Plus un point à 30% des intentions de vote. Écart creusé avec la majorité. 12 points désormais. C'était l'une des affaires à l'origine du mouvement MeToo. Une condamnation pour viol d'Harvey Weinstein vient d'être annulée pour vice de procédure. Il y aura un nouveau procès. Le producteur américain reste en prison où il purge une peine de 16 ans pour une autre affaire du même type. Et puis enfouir les émissions de CO2 en se servant d'anciens ou de vieillissants gisements de pétrole. C'est la nouvelle ambition du gouvernement. Il demande aux entreprises de se manifester pour un début de test dès 2025. Objectif, tenir les engagements environnementaux de la France.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Hier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Emmanuel Macron a prononcé un long discours, hein, plus d'une heure trente, dans lequel il a donné sa vision de l'Europe. Alors la majorité en attendait beaucoup de ce discours. Est-ce qu'il vous a intéressé?
J'ai regardé avec intérêt évidemment. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, c'est mon métier. En revanche, les Français qui ne sont pas payés pour ça ont plus facilement discuté hier des mystères de la caravane blanche de Kenji Girac plutôt que des clés de répartition du budget européen. Je vous rappelle qu'il était 11h du matin quand Emmanuel Macron a pris la parole, qu'une partie du pays est en vacances et que l'autre travaille. Et puis le président de la République qui parle longuement derrière un pupitre, c'est devenu tellement courant que beaucoup ne se sentent même plus obligés de mettre le son. Alors oui, Emmanuel Macron brille dans l'exercice, mais il en abuse tellement qu'on peut finir par penser que le discours est pour lui la source et le sommet de l'art politique. Pourtant, gouverner, c'est faire plus que dire. Et la pratique du pouvoir ne peut pas se résumer à un éternel grand oral.
Mais sur le fond, Vincent, c'était quand même un discours très riche, hein.
Trop riche, presque indigeste. C'était un étouffe citoyen, ce discours. Une de ses faiblesses, il me semble, c'est qu'une fois encore, Emmanuel Macron n'a pas choisi entre le souffle lyrique et le ronronnement technocratique. Il a donc fait les deux. L'Europe est mortelle, a-t-il lancé en écho à Paul Valéry. Mais à peine étions-nous dans la gravité que l'on retournait dans des considérations un peu convenues sur le retour des empires et l'Occident assiégé. Et puis on a aussi eu droit à des torrents de détails à faire tourner la tête à un technolâtre. J'en ai gardé un extrait pour vous, Dimitri. Écoutez bien le verbatim. Faire de la libre circulation des électrons décarbonés une nouvelle liberté de notre marché intérieur. Et comment ? Grâce au développement des interconnexions et à la modernisation des réseaux et des structures de stockage.
Ah oui, ça fait rêver.
On dit que l'éloquence, c'est toucher et c'est convaincre. Qui peut être touché et convaincu par le développement des interconnexions et la modernisation des réseaux et des structures de stockage ? L'intelligence, ce n'est pas l'exposition satisfaite d'une maîtrise technique. L'intelligence, c'est rendre aux choses leur simplicité. Et disons-le franchement, une forme de morgue caractérise la Macronie. Cette morgue s'illustre par un sabir administratif orné de tics de langage inclusifs, de références piochées chez Albert Camus ou René Char et d'une dose de franglais. Cette langue faussement sophistiquée, je crois, un des ressorts profonds de la défiance qui anime aujourd'hui beaucoup de Français, comme le chante Alain Souchon. Il faut voir comment on nous parle.
Alors, le président a tout de même déployé une vision plus large, plus ambitieuse que la petite politique qui anime le quotidien.
Ah oui, c'était sky is the limit. Il a promis de refaire l'Europe et ce n'est qu'un début. Mais en attendant les grands mots, comment ne pas avoir en tête les chiffres de notre affaissement ? Notre dette, nos déficits, notre balance commerciale, les bilans catastrophiques du niveau scolaire, de la délinquance, de l'immigration. Comment croire que le chef de l'État pourra reconfigurer une communauté politique de 27 États-nations quand son gouvernement ne sait pas résister aux exigences de la CGT cheminot ? Comment imaginer faire l'unité d'un vieux et grand continent quand à 15 km de l'Élysée, des quartiers vivent en sécession ? Comment promettre que l'on va sortir de l'Europe compliquée quand leur République du CERFA décourage tous les jours les esprits les plus entreprenants ? Comment penser que l'on pourra influer sur des choses infiniment grandes, Dimitri ? Quand on est impuissant sur l'infiniment petit.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro. Dette, déficit, la France menacée de dégradation par les agences Fitch et Moody's. Vous parliez de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il en sera question d'ailleurs dans le journal de 8h de cette question de la dette publique qui est plus une affaire politique qu'économique. On va voir ça. Merci beaucoup Vincent. Bon week-end à lundi.
Bon week-end à lundi.
Il est 7h56 sur Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le 26 avril. Le 26 avril 1989, les Japonais découvrent une nouveauté à la télévision. Attention, blind test, Dimitri. Est-ce que vous reconnaissez ça ?
Dragon Ball, non ? Au hasard.
Et le 26 avril 1989, vous êtes un collab. On voit que vous avez passé du temps devant la télé, enfant.
Ah oui, la culture avant tout, bien sûr.
Bah, bien sûr. Le 26 avril 1989, la suite de Dragon Ball crée l'événement avec Son Goku, Son Gohan. C'était Dragon Ball Z qui arrivait et c'était il y a déjà 35 ans.
Ouais, et ça dure toujours. Nous fêtons ce jour, bienheureuse Alda, Aldo Brandesca de son nom complet, veuve à 30 ans. On est au 14e siècle. Alda refuse de se remarier, elle se consacre aux malades. De l'hôpital de Sienne jusqu'à sa mort. Bon réveil avec Europe 1 dans un instant. Reportage choc sur le campus de l'Université de Los Angeles, occupé par des étudiants qui ne font plus vraiment la distinction entre la cause palestinienne et l'antisémitisme. Nous rejoindrons la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Dans un quart d'heure, c'est Catherine Vautrin, la ministre du Travail, qui est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews. Nous sommes le vendredi 26 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et Europe 1 vous emmène ce matin sur le campus de UCLA, l'Université de Los Angeles. Le mouvement des étudiants pro-palestiniens continue de s'y développer. Et vous allez l'entendre, les étudiants juifs ne sont pas les bienvenus. Et les journalistes ont toutes les peines du monde à exercer la liberté d'informer. Nous irons également à Bruxelles, où les frères musulmans imprègnent chaque jour un peu plus la capitale européenne. Pression de plus en plus difficile à vivre au quotidien pour les Belges. Un geste de désespoir qui aurait pu lui être fatal. Kenji Girac, admis à avoir voulu simuler un suicide pour tenter de retenir sa compagne. Mais il a omis de vérifier si le chargeur était vide. Explication dans un instant. Et puis Europe 1, radio officielle de Roland-Garros encore cette saison. Le tournoi débute dans un mois avec une nouveauté, un toit tout neuf au-dessus du cours Suzanne Lenglen. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier soir à Sciences Po Paris.
on bougera pas, on reste ici.
Plus d'une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le bâtiment de la rue Saint-Guillaume. Ils en avaient déjà été évacués la veille. Ils réclament, je cite, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po et l'arrêt de ce qu'ils estiment être une répression des voix pro-palestiniennes sur le campus.
Voilà, démobilisation partie des universités américaines, notamment à Columbia, à New York, qui a des cursus d'ailleurs en commun avec Sciences Po Paris.
La direction de cette université américaine a décidé ce matin d'ajourner l'évacuation prévue ce soir. Elle veut poursuivre les négociations avec les collectifs pro-palestiniens. En revanche, la police est intervenue dans de nombreux états. Au total, près de 400 manifestants interpellés, une soixantaine d'universités concernées, dont celle de UCLA à Los Angeles, où ni juifs ni journalistes ne sont les bienvenus à Vivafried.
Oui, environ 200 manifestants ont érigé des tentes sur une pelouse au centre de l'université. Tout autour, il y a des palettes en bois sur lesquelles sont accrochées des affiches proclamant « Free Palestine » ou bien encore « Abat l'impérialisme américain ». Des étudiants, tous masqués, revêtus de keffiyeh, se relaient au mégaphone pour hurler des slogans. Les journalistes ont interdiction de passer la barrière et de parler à n'importe qui. J'ai dû attendre qu'une porte-parole officielle du mouvement veuille bien me répondre par un discours bien rodé.
Nous sommes ici car on ne peut pas faire comme d'habitude alors qu'un génocide se déroule à Gaza depuis 200 jours.
Et pas question, bien sûr, de mentionner les otages israéliens retenus par le Hamas.
Si on pense à autre chose, ça nous détourne de notre principal objectif.
Une vingtaine d'étudiants arborant des drapeaux israéliens circulent sans encombre. Pourtant, une étudiante juive m'explique qu'au quotidien, les choses sont compliquées.
J'ai eu une altercation avec une femme. Elle a regardé mon étoile de David et elle m'a poussée violemment.
Mais la direction de UCLA n'a pas l'intention pour l'instant de prendre des mesures contre le campement. La présence policière sur place est d'ailleurs quasi inexistante.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Emmanuel Macron a annoncé hier soir envisager de nouvelles sanctions contre les colons israéliens, coupables selon lui de violences sur des civils palestiniens.
Oui, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le roi de Jordanie, Abdallah II, le chef de l'État a condamné la colonisation en Cisjordanie et rappelé que des mesures de sanctions avaient déjà été prises par la France, mais aussi la semaine dernière par l'Union européenne.
Les institutions européennes qui subissent la pression permanente de l'entrisme islamiste, notamment à Bruxelles.
La capitale européenne de plus en plus islamisée, Europe 1 a choisi de vous en parler ce matin. Dans certaines rues, on ne trouve plus que des boutiques de voile intégrale, des poupées sans visage et autres accessoires fidèles à la charia. Une réalité de plus en plus portée par les femmes voilées et qui pèse sur le quotidien des Bruxellois, comme l'expliquait ce matin Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10.
Ces 20 dernières années, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont en avant-plan des militantes islamistes qui revendiquent le droit de porter le voile et de le porter partout. Elles sont éduquées pour la plupart du temps, elles ont un niveau d'éducation universitaire et elles sont très influentes parce que les frères musulmans, évidemment, ont compris qu'avec les femmes, ils pouvaient avancer leur projet califal, imposer les normes chariatiques ici à Bruxelles, mais aussi partout en Europe, puisque Bruxelles est quand même aussi la capitale de l'Europe, les institutions européennes s'y trouvent. Et il y a une influence des frères musulmans qui est très présente. Mais c'est aussi dans certaines écoles, l'équipe éducative est constituée, la direction de personnalités de confession musulmane. Ces professeurs réprimandent les filles qui parlent, par exemple, dans les couloirs de l'école avec un garçon. Elles sont réprimandées par ces professeurs. Si elles décident d'enlever le foulard lors d'une sortie à la mer, elles sont rappelées à l'ordre parce que enlever son voile est péché.
Fadila Maroufi, invitée d'Europe 1 matin, entretien retrouvé sur europe1.fr.
Et 8h05 en Iran. En revanche, les femmes aspirent de plus en plus à retirer leur voile et à se libérer de la charia malgré la répression des mollahs.
Et c'est parce qu'il a soutenu ce mouvement de libération des femmes dans ses chansons que le rappeur iranien de 33 ans, Toumaj Salehi, a été condamné à mort. Une décision que le Quai d'Orsay estime injustifiable et que la France condamne avec vigueur.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
Simuler un suicide pour que sa femme ne le quitte pas. Voilà ce qui se serait joué dans l'intimité de la caravane de Kenji Girac lundi matin.
Et c'est en tout cas ce qu'a affirmé le chanteur aux enquêteurs. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans les Landes, vous avez assisté hier à la conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a restitué le témoignage de Kenji Girac.
Oui, le magistrat a livré beaucoup de détails. Dans les heures qui ont suivi ce coup de feu, souvenez-vous qu'Andy Girac avait parlé d'un accident de manipulation de l'arme de sa part. Impossible, disent les spécialistes de la balistique, les experts, qui écartent aussi un tir effectué par une autre personne. Ce n'est pas compatible avec la disposition des lieux. Dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque Andy Girac retrouve sa compagne et leur petite fille dans la caravane, il a beaucoup bu, 2,5 grammes d'alcool dans le sang, d'après les estimations médicales qui seront faites. Éclate alors une dispute entre le chanteur et sa femme, d'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur enfant de 3 ans. Soraya envisage de partir alors qu'elle se trouve avec sa fille dans la chambre. L'artiste de 27 ans, lui, est seul dans le salon et va s'emparer du pistolet acheté quelques jours plus tôt. Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Sur le plan judiciaire, quelques expertises sont encore en cours, mais le procureur a clairement laissé entendre que cette procédure devrait se terminer par un classement sans suite.
Stéphane Place en direct de Mont-de-Marsan dans les Landes pour Europe 1. Notez que les proches de Kenji Girac ont jugé la conférence de presse du procureur de la République indécente. Sur X, le chanteur Vianney a critiqué un procureur, je cite, multicasquette, et d'ajouter « j'espère que la presse people lui enverra des fleurs ».
Le coup prêt est attendu pour ce soir. Les agences de notation Fitch et Moody's doivent réévaluer la note de crédit de la France.
Une dégradation de la note, si elle reste raisonnable, n'aurait pas beaucoup d'impact sur les marchés. D'autant que la France, même dans le rouge, reste une place qui séduit les investisseurs.
Oui, mais un pays où le coût du travail est de plus en plus lourd pour les entreprises.
Et selon un rapport de l'OCDE, nous sommes les champions du monde des charges patronales. Sur les 38 pays passés au crible, c'est en France que les employeurs ont payé le plus haut niveau de cotisation en 2023. Et c'est un sacré handicap, Barthélémy Philippe.
Oui, malgré les récentes politiques d'allègement de charges, les cotisations patronales pèsent toujours très lourd en France. Un peu plus de 26% des coûts de main-d'œuvre supportés par les entreprises. C'est deux fois supérieur à la moyenne de l'OCDE qui tourne autour de 13% et beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. Par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni, les charges patronales ne représentent respectivement que 16 et 10% des coûts de main-d'œuvre. Évidemment, le poids de ces charges freine la compétitivité française. Alexander Pic est membre de la division fiscalité de l'OCDE.
Le coût de travail, ça reste très élevé en comparaison avec la plupart des autres pays. Ceci dit, il y avait une petite baisse en 2023.
La pression fiscale sur le revenu est l'une des plus fortes au monde. Au total, les charges patronales, salariales et l'impôt sur le revenu représentent près de 47% du coût de la main-d'œuvre. En France, un employé au salaire moyen, environ 2600 euros net par mois, coûte plus de 6000 euros à son employeur.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Les sports, Roland Garros, c'est dans un mois.
Oui, et Europe 1 est encore fier cette année d'être radio officielle du Grand Chelem parisien. Pour cette édition 2024, aucun risque d'être embêté par la pluie. Tous les cours seront couverts, même le Suzanne Lenglen, Axel May.
Roland Garros, c'était la dernière épreuve du Grand Chelem à ne proposer qu'un seul cours couvert. Ce ne sera plus le cas. 4 ans après le central, le Suzanne Lenglen se dote enfin d'un toit rétractable. Se félicite la directrice du tournoi parisien, Amélie Morin.
C'était vraiment important d'avoir ce deuxième court couvert en capacité d'abriter 10 000 personnes. C'est un vrai plus pour nous en termes de programmation, de sécurité sur des journées où on saura qu'il risque de pleuvoir.
Pour la première fois, le cours Suzanne Lenglen sera d'ailleurs utilisé lors de la semaine des qualifications, semaine durant laquelle les organisateurs visent 75 000 spectateurs, 50% de plus que l'année dernière. Sur l'ensemble du tournoi, plus de 650 000 personnes sont attendues, porte d'Auteuil, ce qui constituerait un nouveau record. Parmi les autres nouveautés, une 11e session nocturne va faire son apparition et la billetterie sera totalement dématérialisée. Pour pouvoir présenter leurs billets, les spectateurs devront donc télécharger l'application Roland-Garros.
Axel May.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à partir de 8h30. Vos signatures du vendredi, on retrouvera Eugénie Bastier qui nous parlera de la GPA. Catherine Ney, elle, du discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne. Dans un instant, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews face à Romain Desarbres.
Europe 1 matin, 7h-9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, Catherine Vautrin est l'invitée de Romain Desarbres.
Bonjour Catherine Vautrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur CNews Europe 1. C'est votre grande interview. Vous êtes ministre du Travail, ministre de la Santé et des Solidarités. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. Je voulais commencer déjà avec l'Europe et notre tout dernier baromètre OpinionWay pour CNews Europe 1 et le JDD. La liste de Jordan Bardella gagne un point à 30%, suivi 12 points derrière par Valérie Ayer, la candidate de la majorité présidentielle, avec 18% d'intention de vote, en baisse d'un point sur une semaine. Et en troisième position, la liste PS de Raphaël Glucksmann, 13% plus un point. Ça ne bougera pas, les jeux sont faits ou ça peut encore évoluer?
Vous savez, moi je ne suis pas pronostiqueur, je suis une femme politique et mon enjeu c'est de parler d'Europe. Parce que notre sujet, c'est que nos concitoyens mesurent bien que le sujet dont nous allons parler, c'est l'avenir de l'Europe, c'est que va-t-il se passer entre 2024 et 2031, c'est-à-dire comment on s'organise, qu'est-ce que l'on veut. C'est tout le sens d'ailleurs du discours d'un chef de l'État européen hier, le président de la République française, qui a expliqué ce qui se jouait, comment se situait finalement un continent européen qui est entre les États-Unis d'un côté, qui s'occupe évidemment des États-Unis, et ensuite les États-Unis qui regardent la Chine. De l'autre côté, la Chine avec tout ce que peut comporter ce pays, et vous ajoutez à cela la situation internationale qui est particulièrement préoccupante. C'est cela dont il s'agit.
Mais pour l'instant, le discours de Valérie Ayer ne semble pas séduire les Français.
Aujourd'hui,
au-delà de 18%,
mais
en tout
nous
cas.
Sommes aujourd'hui sur, évidemment,
à 6 semaines du vote.
Nous sommes à 6 semaines du vote. Nous sommes à un moment où nous ne sommes pas encore entrés. Dans quelle vision de l'Europe avons-nous? Moi, mon message est extrêmement clair. L'Europe est menacée. Et je crois que c'est la première fois que nous avons une élection où se joue l'avenir de l'Europe. Et c'est cela que je veux partager avec nos concitoyens. Quel modèle voulons-nous? Qu'est-ce que nous apporte l'Europe dans notre quotidien? Que serait l'agriculture sans l'Europe? Que serait la santé? Je suis ministre de la Santé. Rappelons-nous, c'est pas si vieux, le Covid. Comment avons-nous eu les vaccins? Grâce à l'Europe. Demain, comment on règle, par exemple, le sujet des maladies rares? C'est avec l'Europe. Donc, vous le voyez, nous avons des sujets très concrets qui doivent entrer dans cette campagne, plutôt que de savoir si X ou Y fait plus 1 ou moins 1. Parlons du fond, emmenons nos concitoyens vers le fond de la campagne.
Catherine Vautrin, deux agences de notation, Fitch et Moody's, pourraient dégrader la note de la France dans l'après-midi. On attend Standard & Poor's pour le mois de mai. Il faut dire que nos comptes publics sont dans le rouge vif. Est-ce que ça vous inquiète?
Vous savez, effectivement, nos comptes publics sont dans une situation compliquée. On en connaît la raison. La raison, c'est que les recettes de l'exercice 23 n'ont pas été au rendez-vous en termes d'impôts sur les sociétés et même en termes de rentrée de TVA. À partir de là, le gouvernement a pris immédiatement ses responsabilités. On a baissé les dépenses, comme dans n'importe quel ménage. Quand vous avez moins de recettes, vous baissez vos dépenses. Et ce qui est important à rappeler, c'est que ça a déjà été fait par cette majorité. Souvenez-vous la situation des comptes publics quand le président de la République a été élu en 2017. Souvenez-vous de la situation en 2018-19. La France a été capable de redresser ses comptes à ce moment-là. Il faut de nouveau être vigilant sur cette notion de moins recettes. Quand il y a moins de recettes, il y a moins de dépenses.
Vous allez faire des économies dans les dépenses de santé et de solidarité?
J'ai commencé par faire des économies dans les dépenses du budget travail. Sur 22 milliards de budget travail, effectivement, je dépenserai 1 milliard de moins cette année.
Santé et solidarité, est-ce que vous allez faire des réductions de dépenses?
Au moment où je vous parle, quand nous regardons les économies qui ont été faites, nous n'avons pas touché au budget santé et solidarité. Après, il y a des sujets qu'il faut regarder et que nous regarderons. Je vais prendre un seul exemple.
Oui.
Les transports sanitaires, 5,5 milliards par an de transports sanitaires. Je pense qu'on peut probablement, et j'ai d'ailleurs demandé une étude pour mesurer exactement quelles sont ces dépenses et regarder les marges de progrès que nous pouvons avoir sur un sujet comme celui-là.
Vous vous rendez aujourd'hui, Catherine Vautrin, ministre de la Santé, au Conseil économique, social et environnemental ce matin pour la dernière session de la Convention citoyenne. Cette semaine, vous avez été auditionnée par les membres de la commission parlementaire au sujet de ce projet de loi dit fin de vie. Déjà, vous défendez ce texte sans réserve?
Je défends l'équilibre de ce texte qui est extrêmement important. Ce texte a deux parties majeures. La première, l'augmentation des soins palliatifs. L'augmentation des soins palliatifs, c'est de se dire qu'aujourd'hui en France, nous avons 380 000 personnes qui ont besoin de soins palliatifs. Seule une personne sur deux peut aujourd'hui avoir des soins palliatifs. Et donc, le premier projet que nous avons mis en place à la demande du président de la République et sous l'autorité du Premier ministre. C'est un développement des soins palliatifs. Dès cette année, nous mettons 100 millions d'euros pour augmenter, c'est-à-dire créer des unités de soins palliatifs, permettre effectivement un autre sujet qui est celui de l'hospitalisation à domicile avec des soins palliatifs. Et c'est aussi la création d'une filière de soins palliatifs pour que l'ensemble des étudiants en médecine soient formés à la prise en charge de la douleur. La France doit avancer. Ça, elle a un retard sur le sujet. C'est le premier pan du texte. Il est très important de commencer par cela parce que le deuxième partie du texte, qui est l'accompagnement de l'aide à mourir, dépend de 5 conditions. La première, c'est être majeur. La deuxième, c'est résider en France être français. C'est ensuite être atteint d'une maladie grave incurable, de souffrir de douleurs physiques et ou psychologiques, pardon, et surtout, autre point, avoir tout son discernement. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il est très important de parler de soins palliatifs? Parce que quand un patient pense rassembler l'ensemble des conditions que je viens de citer, qu'il demande à un médecin de bénéficier de soins, de l'aide à mourir, la première chose qui va lui être proposée, ce sont des soins palliatifs. Donc encore faut-il qu'il y ait la capacité à proposer ces soins palliatifs.
Pourquoi est-ce que vous parlez d'aide à mourir? Et c'est une question qui est très directe, mais et pas d'euthanasie. Parce que dans certains cas, le texte ouvre la voie à l'euthanasie. Quand le médecin administre une substance létale, ça s'appelle l'euthanasie.
Oui, mais
si le patient ne peut pas se l'auto-administrer, vous connaissez.
Tout à fait, oui, bien sûr. Mais justement, vous venez de citer le texte précisément. Le concept du texte et le principe du texte, c'est que c'est le patient qui s'administre le produit létal, d'où la notion.
Sauf s'il ne peut pas l'auto-administrer.
D'où la notion d'aide à mourir. Et dans le cas où il ne peut pas se l'administrer, deux possibilités. Soit il demande que ce soit un proche, soit c'est un personnel médical. Et dans tous les cas.
Et si c'est un personnel médical qui le fait, ça s'appelle l'euthanasie, on est bien d'accord.
Sauf que, on a le principe du texte, c'est d'abord, le cas général, c'est d'abord que ce soit le patient
qui s'administre. Mais ce texte ouvre la voie à l'euthanasie.
Ce texte ouvre la voie à un sujet dans une situation bien précise, je viens d'en rappeler les conditions. Oui. L'élément important, c'est également l'expertise médicale qui permet de déterminer si effectivement la situation de santé, et c'est un point majeur parce que ce texte s'appelle fin de vie, mais pour aide à mourir pour des patients en fin de vie, je souhaite préciser cette notion de fin de vie qui est un état médical. En d'autres termes, cette situation peut concerner des gens qui sont malades et jeunes. Il ne faut pas lier la notion de fin de vie à une notion d'âge. Mmh. C'est un point important de ce texte également.
Les cultes, et notamment les catholiques, sont farouchement contre ce texte. Qu'est-ce que vous leur dites?
J'ai longuement échangé avec tous les représentants de tous les cultes dans notre pays. Nous, aujourd'hui, nous avons dans ce texte des précisions et un encadrement qui permet de répondre à des situations tout à fait particulière. Et ce que je veux également mettre en avant, c'est que ce texte est la suite de travaux extrêmement importants du Comité consultatif national d'éthique, de la Convention citoyenne, vous y faisiez allusion. Je voudrais vraiment rendre hommage à cette Convention citoyenne. 185 personnes mobilisées pendant 3 mois, qui pendant 3 mois ont porté ce sujet. Et la réunion de cet après-midi en présence du président de la République, c'est précisément de leur présenter ce texte de loi.
Est-ce que les critères que vous avez rappelés pour la fin de vie pourraient évoluer? On pense à la Belgique où les mineurs ont accès à l'euthanasie. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas prévu en France, mais qu'est-ce qui fait que dans quelques années, ça ne serait pas possible?
Aujourd'hui, le texte est très équilibré et notre volonté, c'est évidemment d'être sur ce chemin. Vous savez, quand on parle de vie et de mort, on parle évidemment d'humilité, de respect. Et tout le sujet, c'est évidemment de garder l'équilibre de ce texte.
Marion Maréchal, cette semaine, a qualifié la GPA, la gestation pour autrui, de monstrueuse et de honteuse. C'était chez Pascal Praud sur CNews. Et vous, comment qualifiez-vous la GPA?
Mais écoutez, moi, je n'ai pas du tout ce sujet dans mon calendrier, ni dans ma feuille de route. Donc, je n'ai pas de qualification, je n'ai pas de commentaire. Et ce n'est pas du tout un sujet que je vais ouvrir. J'ai suffisamment de sujets comme ça à traiter.
Est-ce que moralement, la GPA est une pratique qui
Je n'ai choque pas aujourd'hui à travailler sur ce sujet. Je n'ai pas commenté ce dossier.
Catherine Vautrin, je voulais vous entendre également sur la grève dans les hôpitaux privés. À partir du 3 juin et pendant plusieurs jours, tous les hôpitaux privés vont se mettre en grève. Ils ne pratiqueront plus aucune opération, pas même les urgences, uniquement les dialyses. Ils s'estiment maltraités en France. Qu'est-ce que vous leur dites?
Mais évidemment, nous discutons avec l'ensemble des cliniques privées. Alors, quand on parle de cliniques privées, il y a un éventail très important. Il y a de très, très grands groupes, il y a également des groupes familiaux. Frédéric Valletoux, qui est mon ministre délégué en charge de la prévention et de la santé, rencontre évidemment les cliniques privées. La porte est grande ouverte et nous dialoguons. Je tiens également à dire que la tarification qui a été mise en place cette année, puisque c'est de cela dont il s'agit, donc... Oui. Pour les téléspectateurs, il faut expliquer que chaque année, la Sécurité sociale donne une feuille de route qui permet à l'ensemble des établissements de savoir comment tel ou tel acte sera rémunéré. Ce qui était également important et qui a été mis en place cette année, c'est évidemment de rémunérer notamment des actes comme la médecine, la chirurgie et l'obstétrique qui avaient des grands besoins de reconnaissance. C'est fait dans la tarification pour cette année.
Parce que le système de santé français ne pourrait pas fonctionner sans le privé.
Le système français repose sur deux jambes. Et moi, je veux dire mon attachement à ces deux jambes, c'est-à-dire d'un côté, effectivement, le système public. De l'autre côté, le système privé. C'est la particularité française. Elle mérite le respect et l'écoute.
Le gouvernement va reprendre en main les futures règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, Catherine Vautrin. Décision prise après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux, syndicats et patronat il y a deux semaines. Vous allez tout de même les rencontrer, les partenaires sociaux, avant de trancher ou pas ?
Je les rencontre tout le temps. Bien sûr que oui. Alors peut-être qu'il faut quand même qu'on rappelle en deux mots ce qui s'est passé. Le sujet, en fait, sur l'assurance chômage, c'est une convention qui se discute entre l'État et les partenaires sociaux et qui permet d'avoir une convention pluriannuelle. Cette convention se termine au 30 juin 2024. Les partenaires sociaux devaient normalement rendre leur copie pour le mois de décembre. En novembre 2023, ils ont acté le fait qu'ils avaient besoin de temps. Le gouvernement a dit très bien, nous prenons ce qu'on appelle un décret de jointure pour aller jusque 30 juin 2024. Les partenaires sociaux devaient rendre leur copie le 26 mars. Le 26 mars, ils nous ont dit pas possible, on a besoin d'un peu plus de temps. Ça a été le 8 avril et finalement le 15 avril, ils ont acté un dissensus. À partir de là, nous, notre sujet, vous le comprenez bien, c'est d'avoir une solution au 1er juillet. Et là-dessus, je voudrais être très précise.
Oui.
Moi, j'ai un objectif, c'est de ramener le plus de personnes possible à l'emploi. Et en d'autres termes, quand quelqu'un est au chômage, on ne choisit pas d'être au chômage. En revanche, toute la question, c'est comment on travaille votre employabilité pour vous permettre le plus vite possible de remonter dans le train de l'emploi. Et c'est ce qui nous guide. Je travaillais sur le sujet avec le Premier ministre pas plus tard qu'hier après-midi. Notre objectif, c'est vraiment de ramener les gens vers l'emploi. Nous n'avons, au moment où nous parlons, si je parle particulièrement de l'emploi des seniors, moins de 40% des personnes entre 60 et 64 ans sont en emploi.
Alors, on va être très précis. Vous voulez être très précise. On va l'être. Il y a trois leviers qui peuvent être activés pour durcir les règles, modifier les règles. La durée d'indemnisation, le montant de l'indemnisation, évidemment, et la condition d'affiliation, c'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé. Quel levier vous allez modifier ?
Moi, je regarde précisément trois choses. Le premier, c'est quel effet sur l'emploi ? En d'autres termes, combien de personnes je peux remettre en emploi ? Deuxièmement, quel est le risque de précarité ? Parce que le sujet, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont en situation de chômage doivent pouvoir continuer à vivre. Troisièmement, l'économie potentielle. En d'autres termes, rien n'empêche d'être créatif et de réfléchir à d'autres dispositifs. Et c'est ce sur quoi nous travaillons.
C'est-à-dire ?
On peut regarder d'autres éléments. Là, vous avez cité trois paramètres qui sont plutôt des paramètres que l'on connaît aujourd'hui.
Oui.
On peut réfléchir à d'autres choses.
Comme ?
Je n'irai pas plus loin aujourd'hui, ça n'est pas arbitré, mais c'est ce sur quoi nous travaillons.
Donc, autre chose, vous toucheriez à autre chose que l'un de ces trois critères ?
On peut envisager d'autres éléments.
Vous pourriez envisager d'autres éléments. Alors ça c'est une annonce faite ce matin. Marie-Lise Léon, la présidente de la CFDT, a déclaré « Le gouvernement utilise le prétexte du plein emploi pour aller taper dans les poches des chômeurs. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que je ne tape pas dans les poches des chômeurs, j'accompagne les chômeurs vers l'emploi et que mon premier objectif, nous avons besoin de créer de la richesse et la meilleure chose qui puisse arriver à un chômeur, c'est de s'émanciper par le travail, c'est donc de l'accompagner vers l'emploi. Elle le sait, on en parle suffisamment souvent.
Oui. Est-ce que le gouvernement fait suffisamment justement pour favoriser le retour à l'emploi ? Cette semaine, à votre place, il y avait Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.
Et UMM.
Et président de l'UMM, donc un secteur du patronat. Il déplorait qu'il y ait un manque cruel de main-d'œuvre dans le secteur de l'industrie, notamment alors que les postes à pourvoir sont nombreux. Ça, les Français, on n'arrive pas à comprendre.
Mais c'est bien pour ça, et je partage l'avis d'Éric Trappier sur le sujet. Pour ça, on a plusieurs solutions. La première, nous avons avec Nicole Belloubet un haut commissaire à l'emploi. Son objectif, faire le tour des lycées, rencontrer les lycéens pour leur expliquer l'intérêt d'aller vers ces métiers. On a un premier sujet en France, le sujet de l'orientation. Deuxième sujet, l'évolution, la formation professionnelle. Et c'est là où, justement, Par exemple, quand nous travaillons avec France Travail, qui a été mis en place pour aider justement les personnes demandeurs d'emploi, l'idée c'est de les accompagner dans des formations qui permettent, un, de renforcer leur employabilité, deux, d'aller vers des secteurs qui cherchent. Et je suis parfaitement d'accord, et c'est le sens de la mission que j'ai confiée à France Travail, on forme là où il y a des besoins. La meilleure solution, c'est d'entrer en immersion dans l'entreprise, découvrir les métiers de l'entreprise, se former, et c'est comme cela que nous aurons la main-d'œuvre dont nous avons besoin. C'est un enjeu stratégique pour la réindustrialisation du pays.
Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, était l'invitée de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup, madame la ministre. Bonne journée.
Merci, Romain Desarts. Merci, Catherine Vautrin. Vos signatures Europe 1 du vendredi. Dans un instant, nous commencerons par Catherine Ney.
7h, 9h.
Europe 1 Matin. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h30, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe Lamarre.
La France, dans l'attente du verdict des agences de notation, Fitch et Moody's doivent rendre leur évaluation de la qualité de la dette française dans la soirée. Une dégradation ferait surtout mauvais effet sur le plan politique. Elle aurait à ce stade peu de conséquences sur la capacité de l'État français à s'endetter sur les marchés. La campagne pour les élections européennes, le Rassemblement National continue de creuser l'écart sur le baromètre OpinionWay pour Europe 1, CNews et le JDD, avec 30% d'intention de vote. Le RN compte 12 points d'avance sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Classement sans suite plus que probable dans l'enquête judiciaire sur la blessure par balle de Kenji Girac. Selon le procureur de la République, le chanteur aurait simulé une tentative de suicide après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Et puis premier match de la 31e journée de Ligue 1 de football ce soir, Montpellier-Nantes à 21h.
Merci Christophe Lamarre. Le temps, Anissa, ciel gris, température en hausse.
Oui, les températures en hausse, effectivement, n'a plus de valeur négative ce matin sur l'ensemble des régions et cet après-midi. Alors, ça grimpe certes, mais on est toujours en dessous des moyennes de saison avec l'ensemble des températures comprises en dessous de 20 degrés. Hein. 19 pour Carcassonne, 18 à Bastia et Grenoble, 16 degrés pour Paris, Chambéry, Clermont-Ferrand, 15 à Orléans, Metz et Lyon, 13 degrés à Besançon, Brest et Saint-Étienne et 10 degrés à Dunkerque dans le ciel. Alors c'est chaotique aujourd'hui, hein. On a des nuages quasiment partout, des nuages qui s'accompagnent d'averses, avec des averses ce matin le long des côtes de la Manche entre les Hauts-de-France et la Bretagne, des averses le long de la façade atlantique également, et puis des averses soutenues du bassin méditerranéen jusqu'au Grand Est en passant par la vallée du Rhône et la Bourgogne. Et dans ce secteur, on a un risque d'orage important entre les Cévennes et le Var avec de la neige sur le massif central et les Alpes à partir de 1300 mètres. Cet après-midi, il y aura quelques éclaircies en plus sur la moitié nord, mais les orages deviendront de plus en plus nombreux et de plus en plus importants sur l'ensemble du pays.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est l'heure de vos signatures. Dans un quart d'heure, vous retrouverez Dimitri Vernet et son zapping politique, Eugénie Bastier. Elle sera avec nous également. Elle nous parlera ce matin de la GPA, la gestation pour autrui, avec cette avancée législative au niveau européen. La revue de presse d'Europe 1, c'est dans 5 minutes également. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri.
Dans les journaux ce matin.
Eh bien moi je vais vous parler d'une décision, d'un discours qui n'imprime pas, d'une mauvaise note qui pourrait bien tomber aujourd'hui. Et puis je vous ferai découvrir la nouvelle attraction parisienne.
Allez, à tout de suite, Olivier. Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Catherine, il y a 7 ans, Emmanuel Macron prononçait à la Sorbonne un grand discours sur l'Europe qui avait beaucoup impressionné à l'époque. Rebelote hier, histoire de fêter l'anniversaire. Le président sur tous les fronts, vous l'avez évidemment écouté.
Oui, d'ailleurs, chaque jour, vous voyez, le président nous donne de ses nouvelles et c'est comme une bande dessinée. Vous voyez, la veille, c'était la légèreté. Il gambadait sur un terrain de foot, entouré d'anciennes célébrités, il a marqué une pénalty, fallait bien cette image, le goal est resté immobile, c'était pour les pièces jaunes, avec en prime une bise de Brigitte. Mais le lendemain, gravité, force 9 sur l'échelle de Richter, Emmanuel Macron parlait comme s'il était le président de l'Europe qui s'adressait à ses pairs et à eux seuls. Nous sommes à un moment de bascule, nous devons être lucides, l'Europe peut mourir, ça dépend de nos choix. Et de dérouler un plan copieux durant 2 heures, pratiquement sans boire, je ne sais pas vous, mais c'est tout de même une épreuve physique. Trop de choses importantes à ingurgiter à la fois, on ne peut pas. C'est comme un gavage persécuteur. Et chez lui, on note une absence d'autodiscipline incorrigible. On lui dit toujours de faire court, il ne peut pas.
Ouais, si on relit le discours plume à la main, donc 30 pages hein, tout de même, hein, oui. L'analyse qu'il fait de la situation est percutante et on ne peut qu'adhérer à ses propos, Catherine.
Mais oui, mais il y en a tellement que c'est difficile d'en faire le résumé. En tous les cas, lui, il dit dit d'abord, bien sûr qu'il faut l'Europe doit trouver son autonomie stratégique. La guerre est revenue sur le sol européen. L'Ukraine est envahie par la Russie, puissance, dit-il, désinhibée dotée de l'arme nucléaire. Il faut créer une défense européenne crédible. D'ailleurs, quand on ajoute un adjectif, c'est bien que c'est pas encore le cas. La France joue tout son rôle, dit-il. Nous avons un modèle d'armée complète, ce qui est vrai. Notre armée est d'ailleurs sûrement la meilleure du monde. Mais si nous avions été envahis, eh bien, nous n'aurions pas tenu deux jours avec les 140 000 soldats d'armée de terre, 220 chars, quand depuis deux ans, l'Ukraine a détruit 3000 chars russes. Il prône aussi la préférence européenne sur les achats d'armement. Oui, mais comme nous n'étions pas en économie de guerre, comment vendre quand on ne produit pas ? Les Allemands achètent américains et coréens. Pareil pour les Polonais. Aujourd'hui, nous produisons 40 000 obus et les Allemands 400 000.
Alors Emmanuel Macron dit aussi que l'Europe doit composer avec les États-Unis et la Chine, qui pourtant ne respectent pas les règles du commerce.
Oui, et qui subventionnent leur secteur critique, alors qu'on sait bien qu'ils nous en empêchent. On ne peut pas être les seuls à respecter des règles d'il y a 15 ans, dit-il. Nous sommes trop naïfs, ça ne peut pas durer, dont acte. Vous voyez, l'Europe est entourée d'ennemis et d'amis.
Alors, vous avez dit, Catherine, que c'était un discours qui est difficile à résumer, tant il est copieux, mais qui est à la fois crispant pour nos partenaires. C'est aussi ce que l'on attend de la France, peut-être, non ?
Eh bien oui, parce que figurez-vous que tous les présidents de la Ve République ont fait avancer l'Europe. Le général avec le traité de Rome et le chancelier Adenauer, Georges Pompidou a fait entrer l'Angleterre, Valéry Giscard d'Estaing sans doute le plus actif avec l'élection au Parlement européen, les G5, les G7, les conseils européens, François Mitterrand avec Jacques Delors, qu'il ne faut pas oublier, a créé Maastricht, la monnaie européenne, la réunification de l'Allemagne, il faut dire d'ailleurs malgré lui, Chirac c'était la constitution européenne, Nicolas Sarkozy, le traité de Lisbonne qui a empêché le Frexit et avec toujours les couples franco-allemands, Giscard Schmitt, Mitterrand Kohl, Chirac Schröder, Nicolas Sarkozy Merkel, c'était un dialogue permanent. Mais Emmanuel Macron, lui aussi, a un bilan, avec un pouvoir d'entraînement réel. D'ailleurs, hier dans son discours, il disait que 80% de ses propositions avaient été adoptées. Et il peut se targuer, par exemple, de l'emprunt de 80 milliards, oui, pour affronter la pandémie du Covid arrachée à Madame Merkel. Alors aujourd'hui, avec Olaf Scholz, ça fait pas franchement marié au premier regard, mais il faut bien reconnaître qu'après s'être trompé sur Poutine, qu'il ne fallait pas humilier, Emmanuel Macron a été celui qui était le plus offensif et qui a sûrement fait bouger les Européens pour s'armer et lutter contre l'ours russe.
Et il y a une particularité française qui n'a aussi jamais cessé, Catherine, vouloir faire l'Europe en menant une politique à rebours des autres, et notamment de l'Allemagne.
Oui, une politique économique. Et d'ailleurs, c'est Mitterrand qui a ouvert la voie avec les débauches de dépenses, sécurité sociale de 80 à 82. Il y a eu la retraite à 60 ans, les 39 heures payées 40 en attendant les 35 heures, toutes les pensions de retraite, salaires augmentés, la consommation, nous disait-on, favoriserait la croissance et donc l'emploi. L'endettement de la France a commencé à partir de là et on n'en est plus jamais sorti. Mais Emmanuel, de son côté, prône pour les agriculteurs une PAC simplifiée, moins de complicité, alors que la France est la championne de normes et d'interdictions d'utilisation de produits qui pénalisent nos agriculteurs. Il souhaite aussi une Europe puissante économique, mais nos entreprises sont les plus lestées d'Europe en taxes et impôts. Voilà.
Merci. Ben oui, vous avez totalement raison de le souligner. Merci beaucoup, Catherine Ney. Votre regard sur le discours d'Emmanuel Macron, le discours de la Sorbonne 2. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Eugénie Bastier pour nous parler de la GPA et la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on imagine que le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, dont on vient de parler avec Catherine Ney, eh bien que ce discours fait les gros titres.
Eh bien non, Dimitri. Très rares sont en fait les quotidiens régionaux à y consacrer leurs manchettes. Au mieux, il y a ce qu'on appelle un appel en une, un petit sous-titre qui renvoie à un article en page intérieure. Mais Ouest France, par exemple, qui aime à se présenter comme le premier quotidien national, n'en dit pas un mot en première page, rien. Et en une, le directeur de l'Opinion est assez seul ce matin à s'indigner de ce désintérêt général. Que penser d'un discours fondamental sur l'Europe lorsqu'il est relayé sur les chaînes d'infos continues derrière l'affaire Kenji Girac ? S'étrangle Nicolas Bétou. Oui, sans doute, mais il n'est pas certain que les Français soient restés devant leur écran pendant deux heures pour écouter le chef de l'État, semble lui répondre Olivier Biscay, le directeur du Midi Libre, qui parle d'une intervention multidirectionnelle et parfois confuse. Dense. C'était un discours dense, commente pour sa part Jean-Christophe Ploquin à la une de la Croix. Dense qui, en langage journalistique, veut dire ennuyeux. Oui, les macronistes auraient tort d'espérer un impact immédiat de l'adresse de la Sorbonne, qui ne peut être qu'un discours à infusion lente, écrit Guillaume Tabar dans les colonnes du Figaro, qui lui non plus d'ailleurs ne consacre pas son plus gros titre à ce discours.
Alors qu'est-ce qui intéresse le Figaro ce matin ?
Tic-tac, tic-tac, écrit un rien sadique Gaëtan de Capelle dans l'édito à la une du journal. Plus que quelques heures à patienter et le gouvernement saura s'il doit subir ou non l'affront d'une dégradation de la note financière de la France. Le Moody Blues, comme il l'appelle joliment, c'est le titre de son édito, Moody Blues, ou la peur de l'agence Moody's. La France ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle se retrouve dans une situation de soumission, écrit-il, tant de mauvaise gestion a ruiné notre crédibilité. Vous trouvez ça dur ? Eh bien, vous n'avez rien lu. L'Express, qui n'est pas sur le papier le journal le plus hostile à la Macronie, l'Express publie en couverture une photomontage. Macron et le maire sont sur un bateau qui coule. La France plombée, titre l'hebdo, et dans ses colonnes, Béatrice Mathieu adresse un zéro pointé à la Macronie. Chiffre à l'appui, elle démontre que la crise Covid et l'Ukraine ont bon dos. Depuis 2017, l'exécutif porte une lourde responsabilité dans la dérive des finances publiques, écrit-elle. Le bilan d'Emmanuel Macron est accablant. Alors, reste à savoir quand même si la France sera ou non dégradée. À la recherche de quelques infos, on s'est bien surplongé dans les échos, dont l'actualité économique et financière est a priori la spécialité. Eh bien, on a lu, relu, pas un mot, Dimitri, pas un mot sur cette possible dégradation de la France, comprenne qui pourra.
Alors, après avoir énuméré ce que vous n'avez pas lu, Olivier, dites-nous ce que vous avez trouvé dans les journaux.
Eh bien, on découvre que Emmanuel Macron n'est pas rancunier, c'est dans le Parisien, alors qu'il va peut-être assister à la dégradation de la France par des agences américaines. Il souhaite recevoir Joe Biden en visite d'État, le top du top en matière de protocole. Marcelo Westfred et Henri Vernet nous apprennent que l'Élysée tente effectivement de convaincre le président américain de rester en France après le 6 juin pour une visite d'État, donc de 2 ou 3 jours. Bref, jusqu'aux élections européennes, ce serait parfait. En tout cas, si Biden vient à Paris, il faudra l'emmener voir la nouvelle attraction de Montmartre. Pas le Moulin Rouge, hein, qui sans ses ailes ne ressemble plus à grand-chose. Non, je veux bien sûr parler de la nouvelle ZAD. Parce que ça y est, Paris a désormais la sienne. L'info est dans le Figaro. Moins boueuse que Notre-Dame-des-Landes, plus chic que le chantier de la 69, il y a désormais la zone à défendre du boulodrome de Montmartre. Un petit terrain de 765 mètres carrés sur lequel dorment désormais tous les soirs les membres du club de pétanque pour éviter d'être expulsés. C'est Stéphane Kovacs qui a mené l'enquête. La mairie de Paris a effectivement décidé de déloger ces amateurs de boules pour confier l'espace à un hôtelier de luxe mitoyen. Celui-ci promet d'y installer en lieu et place des joueurs de pétanque en Marcel, des abris naturels pour une faune diversifiée, un composteur collectif. Cette réorchestration écologique permettra des cours de méditation et d'apiculture. Bref, vous avez compris, eh bien les boulistes aussi, ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur terrain de boule et leur buvette. Il y a un enjeu social, culturel et sportif. Ici se retrouvent des gens de tous âges et de tous milieux pour jouer aux boules et aux cartes autour d'une bière à 1,50€. Explique Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby qui fait partie des zadistes. L'hôtel, c'est magnifique, poursuit-il, mais il faut sortir le billet pour s'asseoir. Voilà la lutte des classes entre bobos et bouboulistes. Tout cela arbitré par le Figaro. Vous ne me direz pas, après tout cela, qu'il n'y a rien dans les journaux.
Vous êtes plus boulodrome ou composteur collectif ?
Je suis plus bouboliste. Ah.
Le contraire m'aurait étonné. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. 8h46, Pascal Pro vous attend, vous le savez, sur l'antenne d'Europe 1 de 11h à 13h pour converser de tout et de rien, de l'important et du moins important.
Mais quoi,
c'est une bonne présentation de notre émission. Si vous voulez parler de tout et de rien, écoutez Europe 1.
Bon, c'est vrai Pascal, il y a des grands sujets, il y en a de moins grands, mais les conversations n'est pas moins plaisantes.
Mais comment dire, le diable est dans les détails.
Vous avez raison.
Bon, par exemple, qu'est-ce que je retiens d'hier d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que je retiens fondamentalement?
Ça a été long, apparemment.
Des points, 1h50.
Oui.
C'est fou. Parler pendant 1h50. Ouais. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ce que ça veut dire?
Ah bah je sais,
même pour les gens qui écoutent.
Ouais.
Mais comment, je crois pas qu'un président de la République n'ait jamais fait un discours d'1h50. Je crois que c'est jamais arrivé, même en meeting.
Oh, c'est Fidel Castro.
Oui, souvent, plusieurs fois.
1h50.
Hugo Chavez peut-être, ou Fidel Castro.
Je trouve que ça.
Petit joueur, Emmanuel Macron, qu'on parle.
Je vous assure, je trouve que ça dit plus que n'importe quoi.
Ouais. Ça dit quoi?
ça dit que bah, tu es ce que tu fais dans la vie. Il aime parler, il aime s'écouter. Ah, voilà. C'est aussi bête que ça. Il aime s'écouter. Je suis pas sûr que les gens... En plus, c'est plutôt confus au bout d'un moment. Et, oui, parce qu'évidemment, c'est trop. De Gaulle, il parlait... je crois que son fameux discours de 68, ça a duré moins de 5 minutes. Alors, l'appel de 18 ans, j'en parle pas. Bon. En revanche, le procureur de je ne sais où d'ailleurs, le procureur de
Mont-de-Marsan.
Il va peut-être.
Ça vous a plu cette conférence de presse.
Je pense que lui, il va peut-être entrer chez Voici, lui.
Ah oui. Mmh.
Ben oui, parce que c'est quand même incroyable les informations qu'il donne. C'est-à-dire que
d'ordre privé. Ouais.
Mais bien sûr, Monsieur Kenji Girac n'est poursuivi pour rien et étales sa vie.
Oui, c'est vrai.
Tu étales sa vie privée.
Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui décide un procureur à livrer tant d'informations à la presse sur une affaire et
Andy
pas
Warhol,
dans une autre.
Andy Warhol. Ouais. Andy Warhol.
C'est le quart d'heure warholien.
C'est le quart d'heure
warholien. Il y a un précédent Molins, vous savez, c'est
approchez-vous, Olivier Delagarde, dans les micros.
Il y a un précédent Molins, le procureur Paris, qui a commencé à donner des interviews.
Oui, mais Molins, c'était sur des...
C'était sur
le terrorisme. Le procureur de Crépol, j'aurais aimé l'entendre, il n'a jamais parlé, lui.
Oui, c'est vrai, vous avez
jamais
raison.
Jamais, surtout, il est aux abonnés absents.
Bon, autrement, c'est bon.
On sait rien. On sait rien.
Autrement, donc, c'est vendredi, peut-être un peu de légèreté aussi, Pascal. Il va y avoir un mariage pendant l'émission. Même deux pour le prix d'un, je crois.
Non, c'est assez extraordinaire. C'est un père, quoi. C'est deux sœurs qui vont se marier, alors non pas avec la même personne, mais avec qui vont se marier le même jour.
Oh, voilà. C'est chouette.
Ouais. Ce sont les sœurs cadeaux. Elles sont en Bretagne.
Exactement. Je vois que vous savez tout. Et
puis, je m'intéresse à votre émission. Je vous écoute tous les jours.
Oui, on peut écouter de tout et de rien. Donc.
il s'est vexé.
Mais pas du tout. Franchement, vous savez bien, moi, je
taquine. Qui aime bien
châtie bien. Je rappelle, quand il y a des grosses cagnottes ce soir, jouez quand même. On est à 130.
C'est combien ce soir? 133.
Pascal, vous savez qu'à cause de vous, ma femme, elle joue toutes les semaines.
Oui,
c'est à cause de vous. Enfin, c'est grâce à vous, peut-être.
Ouais, si vous gagnez, vous serez bien content.
Bah oui, j'espère que vous me donnerez un petit pourcentage.
Non, n'y comptez pas.
Si vous gagnez. Il vous donnera son petit.
Non, vous voulez pas.
Bon, allez, il faut y aller.
Elle vous a parlé, Anissa, du petit lion qu'elle avait hier.
C'était formidable. Oui, le Socha Lion était dans le studio de Rapin hier. Manqué ça, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, c'était très bien.
Il y a eu des retrouvailles très émouvantes. 01 80 20 39 21 pour Jeanne Pascal Pro, de 11h à 13h sur Europe 1.
Bon, et on vous retrouve dans 10 minutes, Pascal, pour l'heure des pros. Allez, place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
Bonjour Dimitri.
Vous nous parlez ce matin de la GPA. Vous revenez sur la polémique de la semaine provoquée par la réaction de Marion Maréchal à la promotion dans les médias des enfants du designer Jacquemus.
Oui, où est la maman? Voilà la question qu'a posée la tête de liste Reconquête sous une publication annonçant la paternité du couturier français et de son époux qui ont obtenu deux bébés en ayant recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Alors aussitôt, les accusations d'homophobie ont plu envers la candidate, notamment de la part de membres de la majorité présidentielle comme Clément Beaune, Prisca Thévenot ou Olivier Dussopt. Alors premièrement, j'aimerais rappeler que critiquer la location de l'utérus de femme pour obtenir un enfant n'a rien d'homophobe. La maternité de substitution est aussi critiquable lorsqu'elle est pratiquée par un couple d'homosexuels que lorsqu'elle l'est par des femmes milliardaires, par exemple, comme Chloé et Kim Kardashian, qui ont eu recours à la GPA parce qu'elles avaient peur de grossir et d'avoir des vergetures sur les fesses. La GPA, au nom du droit à l'enfant, méconnaît le droit des enfants à connaître leurs origines et le droit des femmes, puisqu'il s'agit, selon les mots de l'académicienne Sylvia Nagasinski, du retour d'une forme d'esclavage où le corps devient l'objet d'une transaction. Deuxièmement, il est curieux que des membres de la Macronie se permettent de soutenir la pratique illégale de la GPA, alors que le président de la République lui-même a dit que c'était une ligne rouge et une question d'éthique.
Alors certains jugent pour autant la GPA inéluctable après le mariage pour tous et la PMA pour les couples de femmes. N'est-ce pas le sens de l'histoire, Eugénie ?
Alors, vous savez, c'est un argument évidemment ressassé. Les bien-pensants de gauche s'effraient souvent d'une fenêtre d'Overton qui ne cesserait d'être agrandie par l'extrême droite. Celle-ci élargirait l'espace des idées acceptables dans le débat public en imposant des propositions jadis impensables sur l'immigration ou l'islam, par exemple. Mais que fait le progressisme sinon imposer par l'émotion dans le débat public des sujets que le sens commun jugeait choquants il y a quelques années ? Je songe par exemple à la promotion d'enfants transgenres dans les médias ou de couples ayant pratiqué la gestation pour autrui à l'étranger. Et c'est ainsi que l'impensable devient inéluctable. Alors quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA
Reprenez votre souffle, Eugénie. On n'est pas pressé.
Quand on fait remarquer aux promoteurs de la GPA que cette pratique est illégale, ils affirment que le progressisme a toujours avancé en mettant en avant des pratiques clandestines pour qu'elles soient ensuite légalisées. Ce fut le cas hier de l'avortement, aujourd'hui de l'euthanasie et demain peut-être de la drogue. Ça existe, donc il faudrait l'encadrer. Mais encore faudrait-il définir ce qu'est un progrès. On peut aussi faire valoir une logique inverse. Par exemple, la prostitution, jadis tolérée dans des maisons closes, est aujourd'hui interdite dans notre droit. D'ailleurs, de nombreuses féministes rejoignent les conservateurs sur ce point de la non-marchandisation du corps des femmes.
Mais on pourra vous objecter que la GPA, elle est déjà légale dans plusieurs pays.
Certes, mais la GPA n'est pas interdite seulement en France. Son exploitation vient d'être considérée par une directive de l'Union européenne comme faisant partie de la traite des êtres humains. On doit à François-Xavier Bellamy cet amendement historique, première condamnation dans le droit international de cette pratique, voté d'ailleurs grâce à l'appui d'une partie de la gauche européenne. Je m'étonne que les macronistes, par ailleurs les premiers à nous rappeler l'importance de l'état de droit face au péril populiste, à se dire plus européens que les autres, se permettent de piétiner le droit européen quand il ne leur paraît pas assez progressiste. D'ailleurs, on parle sans cesse, vous savez, des valeurs de l'Europe, de notre modèle civilisationnel qu'il faudrait défendre contre les agressions extérieures. Eh bien, je crois que parmi ces valeurs de l'Europe, il y a la dignité de la personne humaine, qui ne sont pas forcément des valeurs qui sont partagées dans le monde libéral anglo-saxon, où tout s'achète et tout se vend. Je crois que le sens de l'histoire n'est peut-être pas du côté que l'on croit.
Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. 8h54.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. 7 ans après son discours sur l'Europe à la Sorbonne, Emmanuel Macron nous a proposé hier l'acte 2, enfin plutôt l'acte 5 de sa tragédie.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Oui, voilà son propre bilan après 7 ans d'action. Mais est-ce vraiment surprenant ? Pas vraiment, surtout quand on entend notre dramaturge parler d'immigration.
L'immigration n'arrive pas en France directement. Elle rentre sur le continent européen, et en particulier dans l'espace Schengen, par d'autres frontières. Et donc la France a besoin d'une politique européenne efficace et d'une bonne coopération. Parce que l'immigration commence aux frontières européennes et pas simplement aux frontières françaises.
Oh, c'est bien. Il découvre le concept en 2024, c'est intéressant. Mais après, je vous le dis, je me suis quand même amusé devant ce discours, notamment lorsque le président a dit ceci.
En particulier le Green Deal. Pardon de cet anglicisme dans ce lieu.
Oui, je vous prie de bien vouloir avoir l'obligeance de m'excuser pour cet anglicisme dans ce lieu si mythique, la Sorbonne. 2 minutes plus tard.
Avec la task force pour nos startups, le Made in Europe, Chips Act, en passant par tout ce qui a été fait sur les clean tech ou d'autres. Du New Space Post Inflation Reduction Act.
Ah, sacré Macron. Bon, vous en doutez bien, à 6 semaines des élections européennes, pour les oppositions, ce discours, c'est une entrée en campagne du président.
C'est un meeting pour Valérie, clairement.
C'est le cas de Léon Desfontaines du Parti communiste sur France Info. Léon, pas vraiment très fortiche en calcul mental.
En 2018, même si ma mémoire est bonne.
2017.
Et donc le premier discours, il y a 5 ans.
Qu'est-ce qu'il est bon, notre Léon !
Alors côté LFI, la tête de liste Manon Aubry, elle pense exactement la même chose, mais elle a été un petit peu plus loin dans l'analyse avec ses propres références sur CNews.
J'ai un peu le sentiment qu'on a eu affaire à un arnaqueur sur Tinder. Il vous fait les beaux yeux, il essaie de vous séduire, mais une fois qu'il vous a eu, il disparaît et il n'est plus là.
Ah oui, l'application de rencontre Tinder, c'est chaud avec Manon.
L'enjeu pour le 9 juin prochain, ce sera de passer au suivant, en swipe left, comme sur Tinder.
Bah c'est bizarre, en 2022, elle avait matché avec Emmanuel, pourtant... Bon, écoutez...
On rigole beaucoup ce matin.
Qu'est-ce qu'on rigole avec Manon, tous les matins.
Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique, on vous retrouve sur Europe1.fr, sur les réseaux sociaux et également. Merci à vous de 9h30, n'oubliez pas sur Europe 1 Culture Média, Thomas, il reçoit, oh, David Hallyday.
Oui, il est de retour pour un nouveau titre, mais qu'on connaît 100% en duo avec son père et tout un album qui arrive de chansons reprises avec son papa, vous allez voir, ça va être très émouvant.
Allez, dans un instant sur Europe 1, l'info continue, l'heure des pros, je vous souhaite un excellent week-end, à lundi.